2-3
C'est
minutes.
quoi?
Quelle heure il est? Ouais, 2-3 minutes, le temps que les derniers arrivants se présentent, et puis après on va attaquer la séance. Alors. Ok, super. Alors, on va mettre ça au début. Voilà. Génial. Bah, je vous invite à prendre place. On va commencer dans quelques secondes. Et comme ça, on va aussi pouvoir finir. Je pense, on verra. Je ne veux pas m'avancer, mais la leçon est plutôt courte que longue, mais ça dépend si vous avez des questions, si je suis aussi lent à la détente ce soir. On va voir. Même si vous avez rien à investir, vous allez voir, il y aura plein de choses à prendre. Ok. Ok, super. Super. Bienvenue à tous. On va commencer la leçon. Ouais, merci d'être venu. Ce soir, c'est le premier rendez-vous de l'année 2018. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je crois que cette année, elle va être extraordinaire. On dit ça chaque début d'année. Enfin, moi, en tout cas, je le dis souvent, mais moi, je le crois. Et je crois que chaque année a son lot de particularités, des choses vraiment qui sont différentes des autres années. Certaines choses sont un petit peu identiques, mais en tout cas, je crois que 2018, il y a des choses vraiment qui sont réservées pour nous. Parfois, il suffit juste de les prendre. Parfois, elles sont disponibles, mais on ne les prend pas. Donc voilà, ce soir, c'est le premier rendez-vous de l'année 2018. J'espère que le parcours que vous suivez vous intéresse, mais plus qui vous change, qui vous transforme, comme moi, il m'a changé et me transforme encore. Chaque préparation me parle, etc., me rechallenge sur des points que j'ai vraiment besoin de creuser plus en profondeur. Donc j'espère que ça vous intéresse, mais aussi que ça vous transforme, que ça vous change, que ça vous amène plus loin et que vraiment vous ayez envie d'en savoir encore plus et encore plus. Ok? C'est un domaine qui va nous accompagner toute notre vie, je pense. Ça regroupe plusieurs domaines, ça recoupe des domaines, et on a vraiment, je crois, besoin de grandir. Bah, ça, on le sait, mais le Seigneur nous challenge, parfois il nous pique un petit peu, il nous rappelle, il nous réveille sur des choses. Et ce soir, justement, on est là, on va parler d'investir. Vous l'avez dit, on n'a peut-être pas des choses, on n'a peut-être pas beaucoup de choses à investir, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs clés à connaître, et moi, je préfère ne pas encore avoir de choses à investir. On en a, on le verra, mais de connaître les clés, les principes, pour que quand j'aurai l'occasion, je le ferai bien tout de suite, et pas que je me tromperai, je me prendrai des murs, et que j'apprendrai de cette façon. Je préfère apprendre de la sagesse des autres, et puis on en est au bénéfice par ces formations, et ensuite bah avoir plein succès dans ce que nous allons faire, dans ce que nous allons investir. La dernière fois, on a parlé du travail. C'était un sujet qui était vraiment intéressant aussi. Il y avait des choses qu'on avait dû bah découvrir ou parfois connaître pour ce domaine-là. Et on va le voir le premier jour de la leçon d'aujourd'hui, on va en reparler. Mais avant ça, on a bien sûr le fameux verset. Mais c'était un petit peu différent, il y avait deux versets cette fois-ci. Est-ce que vous avez... alors on a un seul micro ce soir, il est là devant. Est-ce que vous avez envie de déclarer le verset devant tout le monde? Involontaire, vas-y Valentin, super.
Avec plaisir, je vais essayer. Celui qui s'applique... Il marche? Oui. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Mais celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Voilà, ça
Nickel.
c'est le deuxième verset. Et le premier, on trouve de précieuses richesses et des produits de luxe dans la maison du sage, dans la demeure du sage, mais le sot dilapide tout ce qu'il a. Et deux sont dans Proverbe 20, 21, machin, et des versets 20.
Ah, super, on peut l'applaudir, ouais.
Et je
Ouais,
les
c'est bien.
proclame
On
pour la
l'encourage. Nickel. Super. Vous êtes tranquille. Elisabeth, tu veux réciter? Ok, très bien. Le principe, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que disent ces versets, parce que c'est important. Et moi, j'ai envie d'être trouvé justement sage. Et si on est sage, il va y avoir des conséquences dans nos vies. Et bah, elles sont décrites dans ces versets. Super. Je vais prier pour la leçon de ce soir. Et si vous voulez prier pour moi aussi, je crois que j'ai besoin d'être vraiment dynamisé par Dieu et tout. J'ai passé une super semaine, mais voilà. Je vais donner le meilleur de moi, de moi-même ce soir. Si je tombe par terre, ne partez pas pensant que la session est finie. C'est que je serai peut-être... Non, je plaisante. Si, si, il y a des infirmières. Super. Allez, ben, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour toute la semaine qui est passée. On est à l'aube d'un week-end et ce week-end va être encore excellent. Mais ce soir, Père, je t'invite à venir régner dans ce lieu. C'est ta maison et je sais que tu y règnes. Mais nous t'invitons, Seigneur, à prendre la première place et à nous parler ce soir, à nous révéler ton cœur, à nous changer, à mettre le doigt sur ce que tu as envie de nous montrer. Et que ce soir, Seigneur, l'enseignement qui est donné ne soit pas l'enseignement de Luc Manetta, soit l'enseignement du Saint-Esprit. Je te demande, Père, de venir et de parler au travers de ma bouche et de parler à nos cœurs, même mon cœur, Seigneur. Parle-moi encore lorsque j'apporterai cet enseignement. Que tu sois l'honneur, Seigneur, et que dans nos vies, ce soit toi qui sois révélé et que le monde voie ces transformations en nous et qu'il soit touché par ton amour encore au travers de ça, Seigneur. Amen. Super. Ok, alors, peut-être que vous avez fait votre travail avec assiduité et puis très sérieusement. Mais j'ai eu aussi un message de Kurt qui me disait que l'application de cette leçon investir n'est plus forcément à jour. J'ai pas voulu vous mettre plus de pagaille dans votre organisation, etc. Vous avez sans doute pu voir peut-être qu'il y avait des incitations, peut-être dans certains domaines d'investissement, des chiffres, etc. Vous l'avez peut-être fait même sur tout au long des leçons. Enfin, je l'espère en tout cas que vous avez quand même un regard plutôt critique dans le sens analyse, et puis voir qu'est-ce qui vous correspond, pas juste appliquer à la lettre, et puis dire ok, ben, l'exemple qui est valable en Suisse, ben, je vais l'appliquer aussi pour moi qui suis en France, hein, on a souvent eu ces discussions-là, mais simplement que comme effectivement, ben, le monde et la roue tournent, le chapitre sur l'investissement, l'application était peut-être pas forcément à jour. Donc, ce que Kurt me demandait, c'est que si maintenant vous avez envie d'investir pour des sommes ou des projets qui sont quand même conséquents, etc., venez, il est disponible, on peut lui écrire et puis lui demander des conseils directement. Il m'a pas dit, il m'a pas donné toutes les clés, tout ce qu'il fallait. Il m'a juste dit que voilà, sur ce domaine-là, ne vous fiez pas forcément à ce qui est écrit dans le livre parce qu'il a été édité il y a un certain nombre de mois ou d'années et donc que actuellement voilà ben, les choses ont changé et puis que les règles et les lois etc. Enfin, j'ai pas creusé non plus en détail mais voilà si vous avez vu qu'il y avait des incompréhensions des choses comme ça venez m'en parler et on s'occupera de vous conseiller de la meilleure façon. Ça marche? Ok. Donc, on va prendre le premier jour, l'étude du premier jour. Et comme d'habitude, d'après les commentaires, j'aimerais que ce soir, on puisse chacun prendre le micro. On va faire un tour, chacun, mais très courtement. Très, voilà, on va essayer de laisser la place à chacun pour dire très courtement quel était le point fort, quel était l'aspect le plus marquant que vous avez retenu sur la leçon du travail. Peut-être dans les commentaires, peut-être dans l'étude qu'on a fait ici, peu importe. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a marqué et avec quoi vous repartez? C'est important ce soir qu'on puisse le partager. Je vais donner la parole à Elisabeth.
Moi, quand j'ai lu le chapitre sur le travail, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'il dit que l'écriture ne donne aucun exemple de quelqu'un qui part à la retraite, sauf les Lévites. Alors je me suis dit, mais nous, en Europe, enfin, tout le monde à la retraite, et puis c'est vrai que les gens ont tendance à vivre après de voyages, de loisirs, etc. Et en fait, ben Dieu, enfin, c'est pas qu'il est contre la retraite, mais il est contre le fait qu'on soit inactif pendant la retraite. Et ça m'a vraiment parlé. Et donc je me pose plein de questions parce que ben, moi normalement la retraite c'est dans 3 ans. Voilà, ça m'a vraiment interpellée.
Ok. Bah, c'est un très bon domaine, hein, enfin, très bonne réflexion, et effectivement, on ne va pas le développer ce soir, mais oui, vous avez la possibilité, si vous en êtes proche, peut-être d'avoir ce genre de réflexion, mais je crois que Dieu a toujours des solutions, et puis qu'il a, il va nous, mais il nous aiguille effectivement. Pour lui, le fait d'être inactif, comme tu dis, c'est ce qu'il veut pas pour ses enfants, et donc. S'il veut pas quelque chose, il veut autre chose. Il veut quelque chose de bon et il a vraiment quelque chose de bien, de meilleur pour nous. Donc effectivement, on va voir. Ok, super. Vas-y, Valentin.
Alors, pour ma part, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Dieu, il veut qu'on travaille et qui regarde à ça. Et pour Rebecca et moi, nous voulons nous mettre au service de Dieu. Nous avons déjà prié pour lui dire oui, on veut te servir, on veut te servir. Mais il a des projets pour nous, mais il regarde aussi maintenant. Il regarde aussi maintenant. Et ce qu'on fait, si on est sérieux dans ce qu'on fait, dans nos travaux communs. Et donc, bah, c'est ça qui m'a interpellé, c'est que on veut être dispo pour plus tard, mais qu'est-ce qu'on fait déjà maintenant? Est-ce qu'on est déjà sérieux maintenant? Parce qu'on ne changera pas d'attitude dans 5 ou 10 ans. Donc, voilà.
Exactement. Très bien. Vas-y, Rebecca, tu as aussi le droit à la parole.
Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le fait que le travail, déjà, c'est bon, que Dieu nous bénit dans le travail et que, comme disait Valentin, il faut qu'on soit assidu dans toutes les choses qu'on fait au travail, que ce soit des petites choses, qu'on doit être aussi honnête, que c'est tellement facile de se dire « Ah, ce stylo, il vient du travail, mais je peux le prendre. » Et Dieu fait tellement attention à ces petites choses et aussi à l'attitude qu'on a quand on travaille, justement. Parce que des fois, on peut ne pas avoir l'humeur qu'il faut, mais on se dit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pour Dieu aussi. Et que c'est une grâce aussi d'avoir un travail et qu'il nous bénit énormément par ça. Donc, c'est...
Exactement. La chose qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est qui on est. Et pas forcément, pas seulement ou pas en premier abord, ce qu'on fait. Et qui on est va être extrêmement mis à l'épreuve. Travail est peaufiné dans notre travail. C'est pour ça qu'il aime, et c'est lui qui est l'inventeur de ce concept. Le travail, c'était simplement pour faire ressortir le caractère. Et puis pour nous, c'est le cas, c'est le travail qui fait le plus ressortir notre caractère. C'est là qu'on voit qui est une personne de la meilleure façon, en fait. Vous donnez un travail à quelqu'un et vous allez voir qui elle est vraiment, cette personne. Ok, Josiane.
Moi, ce qui m'a touchée, et c'est ce que je fais depuis un certain temps, c'est que, en fait, Raymond, une fois, il avait prêché sur l'excellence, qu'il fallait toujours donner par... qu'il fallait toujours faire dans l'excellence. Et moi, quand je travaille, la plupart du temps, je suis seule et je sais que Dieu me regarde, Dieu est là. Et ça se ressent par chez mes patrons parce qu'ils voient vraiment que je suis honnête. Et par exemple, si j'arrive à 10 minutes en retard, je sortirai 10 minutes en retard, même si personne n'est là pour venir me surveiller, ou même des fois ils viennent à l'improviste, je suis encore là, des fois c'est peut-être fait exprès, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut se dire que Dieu, il nous regarde, hein. Il nous regarde, et ça m'a vraiment parlé la fois que Steve et Rita sont venus, je l'avais déjà dit une fois, on avait fait une réunion de leaders le matin, le samedi matin, et moi j'étais émerveillée de voir tous ces leaders qui étaient là, qui venaient, qui travaillaient pour l'église avec nous, qui se donne, et j'étais émerveillée. Et Steve l'a dit exactement, il a dit exactement les mots que j'avais pensé dans ma tête. Et je me suis dit, mais vraiment, Dieu, il nous voit à chaque seconde de notre vie. Et c'est vrai qu'il faut marcher dans l'excellence et dans l'honnêteté, et être juste, quoi. Bien faire les choses.
Ouais, super.
Puis bien vraiment faire. Et puis travailler comme pour le Seigneur.
Ouais.
C'est surtout ça qui me... Travailler comme pour le Seigneur. Et c'est vrai que ça nous donne de la joie. C'est vrai qu'on est heureux. Puis après, nos patrons sont heureux. Ils en veulent plus. Et c'est super, quoi.
Exactement. C'est ce qui va nous différencier du reste du monde qui ne travaille pas forcément avec... Il y en a qui font vraiment des choses excellentes, etc. Parfois, on se demande s'ils croient en Dieu, mais ce n'est pas le cas. Mais certaines personnes, effectivement, et la plupart du monde ne le fait pas. Et c'est là où ça va nous différencier. Et ça nous donne aussi vraiment une raison d'être. On est vrai, on sait pour qui on le fait. Et on sait que cette personne-là, ce Dieu-là, ne restera jamais non reconnaissant. Il sait toujours dire merci, j'aime bien dire ça. C'est Raymond qui le dit souvent. Et ça nous donne aussi de la motivation. Et puis on le fait... par amour. Donc, par amour pour un Dieu. Et ça touche les gens. Quand c'est en dehors de notre propre personne et de notre propre, développement personnel, etc. Que c'est juste, ça sort de nous-mêmes et d'être centré sur nous-mêmes. Ghislaine.
Alors, moi, ce qui m'a percuté, c'est la partie être un bon communicateur. Bon, en fait... Même le monde dit que l'union fait la force. On connaît tous cette expression. Mais j'avais jamais fait attention que dans la Bible, Dieu met l'accent là-dessus. En fait, c'est le verset Genèse 11, chapitre 11, verset 6. Alors, il y a marqué, le Seigneur dit que lorsqu'un groupe de personnes est engagé à l'accomplissement d'une tâche particulière, et qu'il y a entre une bonne communication. Et alors, c'est ce que la Bible dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voilà. Alors, c'est très, très fort, là, en fait, parce que même Dieu a dû... ces gens étaient tellement unis, ils parlaient le même langage, que Dieu a dû intervenir avec force pour les disperser, quoi. Et alors, j'ai fait un parallèle avec Satan, qui lui divise pour mieux régner, en fait. Et donc, c'est quelque chose de vrai, quoi. Si des êtres humains, si nous, on s'unit, on est d'accord, eh bien, l'ennemi ne peut rien faire, en fait. C'est très, très fort, je trouve. Bon, ça dit aussi que, sauf si ce n'est pas la volonté de Dieu, quoi. Dieu peut intervenir, si ce n'est pas sa volonté, comme il a fait le tour de Babel, mais si ce qu'on fait est du Seigneur, personne ne peut nous empêcher, mais même il ne peut rien faire si on est tous unis, en fait. Et ça, ça m'a parlé. On le sait, mais là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé.
Ouais, super. C'est vrai que c'est un des points dans le travail, effectivement, qui nous permet de vivre quelque chose de fort. Ouais. Super. Merci, Ghislaine. Vas-y, Clémentine.
Voilà, il y a deux points qui m'ont interpellée dans ce chapitre-là. C'était d'abord par rapport concernant le travail. Donc, le travail, c'est Dieu qui l'a créé, en fait, que ce n'était pas pour nous punir. Non, c'est une bénédiction. Ça, ce n'est pas des choses que... Voilà, moi, je pensais plutôt autrement. Et moi, c'est vrai que je pense que c'est une grâce déjà, la façon, parce que je suis quelqu'un. C'est vrai que quand je fais quelque chose, j'aime bien faire, quoi. Je me donne les moyens pour bien les accomplir. Mais je ne savais pas que c'était le désir de Dieu pour ses enfants, en fait. Donc, je le faisais parce que je le faisais auparavant parce que, voilà, mon cœur me demandait de faire comme ça. C'était pas juste que parce que je cherchais la gratitude des personnes. Mais là, ce chapitre m'a fait comprendre que, voilà, tout ce qu'on fait comme travail, en dehors même de l'église, même si mon lieu de travail veut dire professionnellement, je dois le faire pour Dieu. Donc, ça a changé vraiment tout dans ma façon de penser. Parce que aussi, j'ai eu des expériences où, avec les collègues. Donc, c'est vrai que dans un groupe, il y a des personnes qui sont un peu, qui traînent des pieds, comme on dit, et d'autres, qui font le travail pour deux. Et voilà, l'attitude que moi, j'ai, c'était toujours de faire, mais sans, même si je râlais, c'est vrai, je le faisais, mais après, je faisais quand même comprendre aux personnes que ce n'est pas normal. Donc, maintenant, en lisant tout ce... d'après cette étude-là... Donc, ce que j'ai cru comprendre et ce que ça m'apprend, c'est que voilà, il faut que je mette à l'esprit que c'est pour Dieu que je le fais et c'est pas pour les autres. Donc, et ne pas râler ou bien ne pas me plaindre, sachant que c'est Dieu qui me récompensera, quoi. Voilà. Et deuxièmement, c'était la retraite. Je sais que on entend parfois dire quelqu'un à la retraite, tel à la retraite, donc comme si c'était les vacances, mais culturellement, surtout dans la société européenne, donc à la retraite, mettre quelqu'un qui est à la retraite, c'est quelqu'un... En fait, le monde nous a fait penser que que c'est quelqu'un qui est lésé, quelqu'un qui ne sert plus à rien. Et donc, du coup, cette pensée-là peut avoir... je pense que cette manière de penser peut avoir un impact sur la vie des personnes. Parce que même la personne se sent inutile. Donc, du coup, Et alors maintenant, j'ai compris que c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Donc là, maintenant, je me projette, je me dis, j'aurai jamais de retraite. Donc je me sens comme quelqu'un, même jusqu'à la fin de ma vie, je serai toujours active. Donc même si je ne travaille pas pour quelqu'un, je peux travailler pour moi, je peux travailler pour le Seigneur. Et ça change complètement tout.
Merci Clémentine. C'est vrai que le travail, on a tout de suite une idée péjorative derrière. Et quand on se dit, faire mon travail après mes 60 ans, après mes 70 ans, non, plus de travail, fini. Alors que si vous kiffez vraiment votre travail, pourquoi ? Parce que c'est un appel. Alors ce ne sera pas toujours la même, entre guillemets, fonction que Dieu va vous donner. Ça peut changer tellement de fois dans votre vie. Peut-être qu'un jour... si on dit travail, ce sera peut-être de prendre soin d'un groupe de personnes dans une maison de retraite ou peu importe, vous allez aller au travail le matin, peu importe votre âge, il y a des gens qui veulent vraiment pas s'arrêter, c'est beau à voir parce que en fait ils font ça parce, parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils aiment, etc. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Je crois qu'il ne veut pas quelque chose de différent. Quand on est vraiment dans l'appel de Dieu, on peut aller jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas un moment, il ferme le cadenas et puis il dit, ouais, t'as bien servi pendant 60 ans. Maintenant, les 20 dernières années, profite. Si t'as un peu d'argent de côté, fais-toi plaisir. Sinon, ben, on se revoit au ciel. Je crois pas du tout. Francine.
Alors, moi, j'avais pas forcément conscience. Enfin, si, peut-être plutôt intellectuellement, mais pas de façon pratique, du fait que quand je franchissais en fait les portes de mon travail, Dieu était avec moi. Et là, ça m'a fait prendre conscience que, ben, de la même manière que Dieu avait initié, créé le mariage ou d'autres institutions, ben, le travail, c'est lui qui l'avait pensé, qui l'avait voulu. Et donc, si je travaille, c'est par son désir et sa volonté. Et c'est lui qui est mon employeur, en fait. Donc, c'est lui, c'est pour lui que je travaille. Par exemple, souvent, il y a des situations, même en termes de promotion, d'avancement, ou la considération que ton patron ou la personne qui est responsable de toi va penser de toi, tout ça, ça peut te déterminer en fait à agir d'une manière ou d'une autre parce que tu veux être promu. Et là, ça, moi, ça a juste conforté le fait que, en travaillant pour Dieu, c'est Dieu qui assurait ma promotion en fait, et pas un homme. Donc, bien sûr, il faut que j'ai du respect vis-à-vis des autorités qu'il établit, mais à compétence égale ou à situation égale, Dieu peut décider de me promouvoir en fait par rapport à une personne qui est là depuis des années, et c'est ce qui est en train de m'arriver en fait dans le travail. Et avec cette leçon, j'ai juste quand je pense que j'ai eu conscience de ça, un jour devant la porte avant d'entrer dans le bureau, j'ai juste réalisé et je me suis dit, Seigneur, Saint-Esprit, tu es avec moi. Tu es avec moi dans le sens où au cours de la journée, tu seras là. Parce que j'avais l'impression que c'était cloisonné, en fait. Que, comme s'il y avait des domaines où Dieu était manifestement présent et d'autres non. Et en fait, ce n'est pas vrai. Donc, voilà.
Super. Super. C'est impeccable. Ça m'est aussi arrivé et ça m'arrive encore. Donc, super. Merci. C'est super.
Alors, j'attends. Au niveau du travail, moi, ce qui m'a parlé, c'est déjà de un, que le travail s'était mis en place avant la chute. Et que ça a été mis dès le départ, c'est vrai que c'est pas que je le savais déjà, mais ça m'avait pas autant marqué que là. Et c'est que le travail dur est venu qu'avec la chute, donc ça m'a parlé. Et la deuxième chose, c'était travailler pour Dieu avant de travailler pour son employeur. Parce que souvent, on est là, on bosse pour faire du chiffre, pour entre guillemets être le meilleur, ou parce que dans le commerce, on se compare entre magasins, donc. Ouais, on est meilleur, enfin, et de se dire, en fait, mon objectif premier, c'est pas de faire les meilleures progressions, tout ça, même si c'est aussi un objectif important, mais c'est de montrer aussi les valeurs de Dieu au travers l'honnêteté, la manière de manager, être juste, etc. Et que ça doit passer avant. En fait, c'était important aussi, mais ça m'a fait prendre conscience que ça doit être prioritaire aux chiffres, enfin, aux chiffres ou à la réussite, machin, tout ça. Et de toujours aussi donner la gloire à Dieu, parce qu'au final, c'est lui qui nous permet de... Et ça, j'ai déjà remarqué, hein, parce que quand je suis rentré dans le nouveau magasin, j'ai rien fait, les chiffres, ils ont... enfin, j'ai rien fait, tu vois. Et je sais que c'est Dieu, quoi, et... toujours pouvoir être reconnaissant que malgré les bons résultats, de temps en temps, des fois, on aime se dire « Ah ouais, on a mis ça en place, machin. » Mais en fait, s'il n'y avait pas Dieu, donc garder toujours son cœur en bas, quoi.
Ouais, voilà. Super.
Ça m'a bien...
Ça nous parle à tous, effectivement. Sarah ?
Les deux choses, moi, qui m'ont vraiment parlé sur le chapitre du travail, il y en a une qui remonte où Dieu avait commencé à me parler un peu avant cette formation via un séminaire de courte, où c'était vraiment de mettre Dieu au cœur de toute décision et de toute chose dans l'entreprise, même si, en fait, j'avais déjà l'impression de le faire, mais je pense que ma part à moi, elle revenait quand même de temps en temps, où, même si j'avais l'impression que Dieu était au cœur. Il y avait encore plein de choses que je faisais par moi-même et où je n'avais jamais ni même pensé à consulter Dieu pour ce genre de petites choses. Et donc, ça avait été une grande claque pour moi de remettre ça en question et d'essayer, je dis essayer parce que de tout lui soumettre, parce qu'il y a des fois tellement spontanément ma nature humaine revient et prend le dessus de par la force des choses et d'entreprendre, etc., par soi-même, j'oublie des fois de remettre les choses à Dieu. Et donc ça, c'était vraiment un point fort dans le travail qui m'avait marqué l'année dernière. Et l'autre point, c'était le surménage aussi qu'on a vu dans le chapitre d'avant, et de trouver le repos dans le travail. Et ça aussi, c'est un point qui me parle beaucoup et que je dois travailler pour pouvoir être dans l'équilibre, ni dans la paresse, mais ni dans l'excès après aussi de toujours tout faire promptement et de savoir trouver le repos et remettre les choses à Dieu. Et donc du coup, en le mettant à la première place, moi aussi, de pouvoir juste rester à ma place, en fait. Voilà.
Super, ouais. Merci Sarah, c'est vrai que c'est parlant. Peut-être moins pour certains, plus pour d'autres. Moi, je comprends effectivement que parfois on peut être dans le surmenage, donc très important. Et je crois que Dieu, effectivement, ne veut pas qu'on fasse un travail acharné. Si vous prenez la parole de Dieu, c'est pas non plus un travail relax à la cool. Paul travaillait vraiment, c'était un dur labeur, il disait, voilà, c'est écrit comme ça. Mais c'était pas un travail qui allait le mettre à terre et qui allait l'empêcher de faire ce que Dieu lui demandait de faire, donc d'annoncer la parole et d'annoncer l'évangile au monde entier. Alors, sur le net, Gary, est-ce que tu pourrais partager, toi, ce qui t'a marqué ?
Ben, tout non, parce que ça va être long. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est aussi les termes qui sont utilisés. Parce que quand on parle de travail, on croit tout de suite que c'est le boulot qu'on a, là où on a un contrat, ou l'entreprise dans laquelle on travaille et tout ça. Mais pour moi, le travail, c'est pas seulement ça. Il peut y avoir plein de formes de travail différentes et des choses qu'on fait. Et du coup, avec cette pensée-là, tout l'enseignement, pour moi, était un petit peu compliqué parce que j'essayais de voir les versets sous toutes les formes. Je vais parler moi, personnellement, à côté de mon boulot, j'organisais un festival de musique chrétienne qui me prenait 8 mois de préparation dans l'année. Et c'était 100% du bénévolat et c'était du travail, mais c'était... J'avais personne au-dessus de moi, on faisait ça avec d'autres, c'était une association, et c'était en plus du boulot. Donc c'est aussi un travail, en plus du travail de comptable que j'avais dans une entreprise, et en plus encore d'autres activités qu'on faisait tout au long de l'année, avec d'autres associations ou alors avec l'église. Donc parfois je trouvais que ce qui avait été dit ou ce qui avait été expliqué ou certains versets utilisés, ben, il fallait pas le voir que seulement au travail là où on a un salaire et là où on a un patron au-dessus de nous. Et cette vision-là des choses par rapport à Dieu aussi, ben, ça change la perspective pas seulement au travail, mais ça change la perspective de tous les jours, de tout ce qu'on fait. Et il y avait un autre exemple aussi qui me venait, c'était les mamans, par exemple, qui font le choix d'élever leurs enfants, ils arrêtent de travailler, entre guillemets, et ils élèvent leurs enfants, bah, c'est aussi un travail. Et c'est aussi quelque chose qui peut correspondre à tous ces versets et qui peut parler au cœur de ces personnes qui font ce genre de choses. Et dans un autre sens, quand j'étais responsable du festival, on avait une centaine de bénévoles. Ben là, on voyait le sens contraire de tout ce qui a été dit. C'est qu'il y a des gens qui étaient bénévoles, donc c'était comme un travail, mais comme c'était pas payé, ben ils pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, ne pas suivre les ordres, venir quand ils veulent, partir quand ils veulent. Et là aussi, je me suis dit, ben tiens, l'enseignement qui a été donné là, c'est quelque chose qu'on aurait pu utiliser à cette époque-là pour les bénévoles, pour bien comprendre que ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Et avec Dieu, il y a toujours certaines règles à respecter. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé. Bon, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais
Super, ouais, c'est bien.
voilà, je voulais juste, parce que ça a aussi été dit tout à l'heure par rapport à la retraite. Voilà, la retraite, ça, c'est un mot qui est utilisé. C'est une retraite. Nous, dans le monde actuel dans lequel on vit, la retraite, voilà, c'est arrêter de travailler, continuer à percevoir un salaire. Mais c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on travaille plus. Au contraire, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup d'exemples aussi, où c'est quand les gens atteignent la retraite qu'ils ont vraiment commencé à. Enfin, ils n'ont pas commencé à travailler, mais ils ont travaillé le double après. Ils n'avaient plus le temps parce qu'ils se sont engagés dans plein, plein, plein de choses, notamment pour le Seigneur. Et ça, c'est encourageant, je trouve. C'est arriver à la retraite. Faut pas le voir comme tiens, je vais arrêter de travailler, mais c'est je vais travailler doublement maintenant pour le Seigneur. Et c'est vraiment dans plein de domaines différents, dans le social, dans le monde chrétien, dans tout ce qui existe. Moi, je trouve que c'est vachement encourageant ce qui a été dit et les versets utilisés. Voilà.
Super. Merci pour ton partage. C'est vrai que c'est important de considérer la notion du travail dans tout ce qu'on fait. Il l'a très bien dit, Gary. C'est pas juste lorsqu'on a un salaire. C'est pas juste lorsque dans notre vie active on doit avoir une occupation, etc. C'est tout ce qu'on fait, effectivement. Ok, Josué, si tu veux nous partager,
Ouais.
et Clémence, si
Ouais.
vas-y.
Alors, ben moi en fait, je pense qu'il y a, si on avait dû me demander, poser la question là, il y a un an, j'aurais sans doute dit l'ambition, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec la leçon, que, en fait, pour moi, l'ambition, c'était quelque chose de négatif. Enfin, je voyais l'ambition que, en écrasant les autres, en essayant de monter, etc., et pas nécessairement, en tout cas, au sein du travail, je veux dire, du travail rémunéré, hein. Je parle pas d'un travail à la maison ou autre, mais au sein d'un travail rémunéré. Mais aujourd'hui, en fait, vu ma situation actuelle dans le travail où je suis dans une passe qui est super compliquée, pour moi en ce moment, pour pas mal de raisons. C'est vraiment de le faire pour Dieu, parce que en fait c'est pas un enseignement qui est nouveau, parce que enfin, moi en tout cas je l'avais déjà entendu pas mal de fois, et c'est quelque chose que je pensais vraiment appliquer pour ma vie, en me disant ben écoute, je travaille pour toi Dieu. Mais c'était assez facile en fait pour moi de le faire avant dans ce sens-là. Et ça fait plusieurs mois maintenant que c'est compliqué au travail, et de continuer à le faire, de se dire allez Seigneur, tous les matins avant de partir au travail, de dire allez Seigneur, je le fais pour toi. Et ben franchement c'est beaucoup plus compliqué quand on passe par une phase difficile dans le boulot. Et donc c'est plus ça en fait, moi, qui m'interpelle en ce moment, parce que voilà, enfin, mais au vu de ma situation, quoi.
D'accord. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas toujours très simples. Et de se dire, oui, comme tu le dis, de partir le matin au travail, c'était une des astuces que j'avais notées pour se souvenir pour qui on travaille, dire Seigneur, oui, je suis sur la route du travail, ce travail, je le fais pour toi, etc. C'est pas toujours très simple. Mais par contre, je crois que les issues, les solutions et tout ce qui est peut-être pas juste devant nous, mais ce qui vient, c'est entre les mains de Dieu. Lesquels ne sont pas toujours entre les mains de Dieu pour certaines personnes. Donc moi, c'est ce côté rassurant que j'aurais de me dire Seigneur, je peux me confier en toi, tu vois exactement ma situation, là, tu as ton regard sur moi, et je sais que, ouais, quoi qu'il en soit, c'est le travail que tu m'as confié, donc si tu es mon boss, tu vas avoir les solutions. Et par contre, effectivement, bah ouais. Continuer de prier et puis on va pouvoir aussi, c'est bien d'en parler comme ça, on va pouvoir peut-être creuser ça en privé aussi, ça m'encourage. Est-ce que Clémence est à tes côtés? Si elle voulait
Ouais.
s'exprimer?
Oui.
Ok. Vas-y
Pour moi,
Clémence.
cet enseignement a été très très dur à recevoir. Parce que autant quand c'est pas, justement quand c'est pas mon travail qui je reçois un salaire, là je suis à fond, mais pour moi ça va vraiment pas trop bien au travail non plus. Ça du tout motivée. Enfin, j'ai perdu complètement l'envie d'aller au travail le matin. Donc, je confie ça à Dieu, mais j'ai même du mal à voir Dieu, enfin, à voir que mon travail se fait pour Dieu. Quoi. Et en fait, ce qui est difficile pour moi particulièrement, c'est que donc chaque année, en fait, dans notre entreprise, on fait un bilan avec notre chef de l'année, si on a bien rempli nos objectifs, etc. Et en fait, on fixe aussi les objectifs pour 2018. Et un des objectifs que ma chef a fixé sur mes objectifs 2018, c'est en gros vendre plus mon travail, ce que je fais au quotidien et me montrer, quoi. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que je considère que ça n'est vraiment pas l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai pas l'impression que ça me correspond, j'ai pas, même pas l'impression que Dieu me demande ça, en fait. Et donc, du coup, je ne sais pas comment le prendre, et c'est vrai que ça a un impact sur ma vision de mon travail financier, en tout cas, enfin, financier, de mon travail technique aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Ok. C'est juste parce que le son était pas tout à fait clair, mais ce que disait Clémence, c'est que sa chef et elle ont fait un bilan, ils font un bilan chaque début d'année, et ils font un bilan sur les objectifs à atteindre l'année. Puis un des objectifs qui a été défini n'était pas selon ce que Clémence pense être un appel de Dieu ou une tâche que Dieu lui aurait confiée, et c'est là où ça rend compliqué le fait de d'aller à son travail et de travailler pour Dieu. Donc il y a cette différence. Est-ce que je l'ai bien expliqué, Clémence? C'est bon?
Oui, très bien.
Voilà. Donc effectivement, c'est une situation qui peut être compliquée. Moi, la première chose qui m'est venue en tête lorsque tu as parlé de ça, Clémence, c'est que dans la Bible, parfois, il y a des situations quand les personnes ont été mises face à des responsabilités, des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait, et parfois on peut le trouver très clairement dans la parole, on peut se positionner et dire, ok, là c'est peut-être le moment où Dieu veut me montrer quel choix je vais faire. Est-ce que je vais suivre ce qu'il dit? Est-ce que je vais suivre le monde qui veut peut-être me paralyser ou me mettre en dehors de la course avec Dieu? Et parfois ça peut être des signaux comme ça qui sont très clairs. Bah, on peut le voir dans la parole, ou alors effectivement dire, Seigneur, maintenant il faut que tu me montres dans les circonstances, dans les temps à venir, très clairement comment je me positionne, etc. Il n'y a pas de solution toute faite, c'est vrai que ça peut être une situation compliquée, et là pareil, prenons à cœur ce sujet, prenons à cœur leur sujet, et pour les soutenir, et puis peut-être que Dieu va les encourager au travers de vous. Ok, il y a les petits groupes de prière, je le rappelle, qui sont là aussi pour ça. Et je donne pas ça comme une solution super simple, et puis je botte en touche, surtout pas. Mais ça me fait montrer aussi qu'on a des besoins, on a des semaines qui nous challenge, etc. On n'a pas juste une formation, prendre plein de principes, etc. Soyons aussi une famille qui, comme disait Ghislaine, on est unis, et puis on avance, et puis on s'entraide, ok. On croit qu'il va y avoir des solutions pour vous, et on va prier pour ça, les amis, en tout cas.
Nous aussi, on
croit. Et en plus, si vous parlez avec eux, ils sont super optimistes. Et puis, ils savent que Dieu les a mis là-bas pour une raison particulière. Mais ça peut être compliqué. Donc, c'est pas juste, c'est pas toujours tout rose. Mais ils sont forts et ils sont super encourageants en plus. Super. On a mis un peu de temps pour le jour numéro 1. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé cool que vous puissiez prendre la parole et que vous puissiez vous exprimer. Et on va passer au jour 2, on va continuer la leçon. Et on a beaucoup parlé de travail ce soir, mais le thème, c'est investir. Investir, qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que la parole nous dit, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va prendre quelques versets. Et le premier, c'est Genèse 41, versets 34 à 36. Je vous place dans le contexte. Vous avez sans doute entendu l'histoire où Pharaon, donc celui qui était à la tête de l'Égypte, a eu un rêve. Il voit sept vaches grasses et sept vaches maigres. C'est le fameux rêve des vaches grasses et les vaches maigres. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Dans ce verset, on voit clairement que Joseph, qui était administrateur à ce moment-là de l'Égypte, il fait des provisions pendant les années d'abondance en prévision des années de famine. On va le voir tout à la fin de la leçon. Vous allez vous en souvenir, notamment de ce passage. Oui, la famine, c'est pas juste à l'époque biblique. Actuellement dans le monde, il y a des famines et il y a des choses qui sont en train d'arriver. On en reparlera à la fin de la leçon. Proverbe 21, verset 20, c'est le second verset. Vous devriez le connaître. On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe. On trouve des précieuses richesses et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais le sot délapide tout ce qu'il a. C'est très clair, les sages font des provisions, mais les insensés ne font que consommer. Attention, c'est très important de prendre conscience que Dieu nous donne des provisions, nous donne des ressources. Si on dilapide tout ce qu'on a en consommant, en achetant, en dépensant, à un moment donné, il se peut qu'il y ait un moment, un manque dans notre vie. Et on ne peut pas se retourner contre Dieu parce qu'on aura mal géré. On est d'accord ? On va le voir aussi dans la suite. Proverbe 30, verset 24-25. Il existe sur la terre quatre espèces d'animaux fort petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Les fourmis qui n'ont pas de force, mais amassent leur nourriture pendant l'été. Et le verset s'arrête là. Et c'est intéressant de voir que les toutes petites fourmis sur lesquelles on peut marcher, elles sont plus sages que certains humains qu'elles ne peuvent même pas regarder jusqu'en haut, je pense. Je ne sais pas comment pense ou voit une fourmi, mais en tout cas, Dieu, qui les a créées, les considère sages, très sages. Pourquoi ? Seulement parce qu'elles font des provisions durant l'hiver. Elles ont une capacité à comprendre, pendant l'été pour l'hiver. Et elles ont cette capacité à comprendre qu'il se peut que, ou bien il y a une saison qui va arriver, une saison difficile où les provisions vont manquer, donc on fait des réserves. C'est incroyable, un tout petit insecte, une toute petite, je ne sais pas si on les considère comme des insectes d'ailleurs, mais ils ont cette capacité-là. Et c'est incroyable, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, qui avons la pensée de Dieu, qui avons l'esprit de Dieu, qui avons le cœur de Dieu, qui avons tout de Dieu, on ne puisse pas penser comme les fourmis. C'est incroyable. Donc, à nous, je ne sais pas, aller dans les champs et puis trouver des fourmilières et puis faites des réserves de fourmis. Mais en tout cas, quand vous en voyez une, peut-être pensez, ah tiens, ça peut être juste une façon de se rappeler les choses. Ok. Tous ces passages qu'on vient de voir, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent d'épargner. Le verbe épargner. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement épargner ? Parce que souvent, on peut se dire, ok, moi quand je pense à épargner, je vois tout de suite Gripsou qui épargne, qui veut garder pour lui, qui veut faire des réserves. Mais épargner, c'est simplement ne pas dépenser aujourd'hui pour avoir quelque chose à dépenser demain ou plus tard. Ne pas dépenser aujourd'hui pour avoir de quoi dépenser plus tard. J'ai bien aimé cette définition. Ne pas dépenser aujourd'hui pour avoir de quoi dépenser plus tard. Et le problème aujourd'hui, c'est de se priver. Les gens ne veulent plus se priver, ou du moins un plus grand nombre sur cette terre. La notion, en fait, c'est pas une notion. Se priver, c'est pas trop à la mode, en fait. C'est pas trop ce qu'on aime entendre, en fait. Pourquoi ? Parce que la société, sans peut-être le vouloir, ou alors les mécanismes ont été mis en place intentionnellement, je connais pas trop, mais en tout cas, le constat, c'est que la consommation instantanée, le tout de suite, c'est ce qui régit notre monde, et de plus en plus. Et on va pas dans le sens contraire. Vous allez voir, peut-être que c'est un slogan pour une nouvelle start-up, j'en sais rien. Privez-vous de tout, on vous donnera rien. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est peut-être à creuser, mais je crois pas. Je crois pas parce que se priver, c'est pas trop agréable. Nous, on a envie de profiter. Voilà. Et c'est pas un problème si peut-être dans votre vie perso, vous n'épargnez pas encore, vous n'avez pas encore la capacité ou les possibilités d'épargner. Mais il est important de se dire, ok, à un moment, dans les ressources que je vais avoir, et ça, on va aussi le découvrir lorsqu'on va faire la prochaine fois la série sur l'éducation, c'est de commencer très tôt à enseigner la notion d'épargne à nos enfants. Parce que quand nos enfants seront prêts, ils ont mis un peu de côté dans un objectif, on va le voir, précis, ils vont être tellement satisfaits de s'être privés un moment pour recevoir plus tard. Et quelque chose qui va peut-être être un investissement ou peu importe. Mais c'est important de comprendre que l'épargne, c'est pas un problème. Et c'est surtout une clé dans nos finances, dans la gestion de nos budgets, etc. Ok, le verset suivant, c'est Luc 12, versets 16 à 21. Écoutez bien. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange. » Bois et jouit de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Et un verset qui vient soutenir cette parabole, c'est le verset dans Luc 12, verset 34, « Car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. » Vous le connaissez. Mais je reviens sur l'histoire que Jésus nous donne. Le problème, c'est quoi exactement? Le problème, c'est un petit mot. Exactement, c'est le mot « tout ». Dans cette parabole, le problème, c'est que la personne... Ce riche, cet homme riche, est-ce que c'est un problème d'être riche? C'est pas du tout un problème. Est-ce que c'est un problème d'avoir des greniers bien remplis? Admettons que vous ayez peut-être un héritage et d'un coup, les greniers se remplissent, etc. Peu importe si c'est des finances ou si c'est des ressources, du blé, du maïs, si c'est... Bref, c'est pas du tout un problème. Le problème, c'est qu'il a tout mis dans ses greniers. Et il a tout épargné, parce qu'on est là en train d'étudier l'épargne. Et il l'a fait pour lui-même, tout pour lui-même. Il avait une vision introvertie, égocentrique, vous mettrez le mot que vous voulez, pour sa conso perso. Et c'est là le problème. Et là, je crois que Dieu n'est plus d'accord. Le fait est qu'il n'a pas équilibré son épargne avec des dons généreux. Pourquoi? Et on l'a vu dans différentes autres leçons, Dieu aimerait qu'on soit des bénédictions, un canal. Un canal, c'est là où coule la bénédiction. Il faut qu'il y ait un mouvement de générosité, etc. Et c'est ce que, dans cette situation, l'homme n'a pas prouvé, n'a pas montré. Et c'est ça que dénonce Jésus. Et là où j'ai complété avec le verset suivant, c'était qu'il a mis là où sont nos richesses, là aussi sont nos cœurs. Le cœur de la personne insensée, ben son cœur, il était en lui-même, il était sur lui, il était sur ses intérêts, etc. Il n'était pas placé en Dieu, parce que s'il avait le cœur du Père, il aurait fait ça. Il aurait été riche et il aurait arrosé les autres. Il aurait eu pour soi-même et il aurait arrosé les autres. Il aurait eu pour soi-même et il aurait béni les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc il est important de comprendre bibliquement, oui, il est permis d'épargner et d'investir une fois que nous avons donné. Mais il ne faut pas oublier de donner à qui? Au Seigneur. Cette personne a tout gardé pour lui. Il n'a même pas pensé une fois, même s'il croyait en Dieu, il n'a même pas pensé une seule fois dire « Seigneur, tout ça, je l'ai reçu grâce à qui ?»« Bah, Seigneur, je vais t'honorer. Tiens, qu'est-ce que me dit ta parole ? Si je veux commencer à être un gérant fidèle, par quoi vais-je commencer ? Et je vais le faire. » Parce que si on commence à donner généreusement au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? On commence déjà par mettre Dieu en premier. Et qu'est-ce que ça fait ? Que notre cœur est sur qui ? Est sur Dieu. Nos richesses sont sur Dieu. Les richesses de notre cœur sont sur Dieu. Au final, nos richesses physiques sont aussi pour Dieu. Et l'amour qui en résulte est pour Dieu. Et c'est la première base. C'est le commencement de tout ce que nous devrions faire. Et le verset, justement, il dit que cet homme, il n'est pas devenu riche aux yeux de Dieu. C'est triste. Alors qu'il avait beaucoup de choses. Mais Dieu l'a considéré comme quelqu'un de pauvre s'il n'est pas devenu riche. Ou bien si, voilà. Mais comment on fait, à votre avis, souvenez-vous, comment on fait pour devenir riche aux yeux de Dieu ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro et dire « Ouais, moi je me souviens, parce qu'on l'a vu. » Ouais, vas-y Ézéchiel, t'as le micro ?
Ah ouais, déjà, comme on a vu au début, donner, c'est recevoir. Et les dons et les offrandes. Non, pardon. Les offrandes, voilà. Pour créditer le compte céleste. Voilà, c'est ça.
Ouais, super. Ça va, t'avais pas un pistolet sur la tempe pour le dire. Hein. Tu l'as dit de ton cœur. Ouais, c'est bien. Exactement. C'en est un exemple. C'en est un exemple, effectivement. Les dons, les offrandes. Oui, la libéralité, c'était un des chapitres, ça regroupe beaucoup, beaucoup d'aspects, d'accord ? Et il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs personnes qu'on peut bénir financièrement, etc. Et ça, effectivement, aux yeux de Dieu, ça nous qualifie pour être parmi les personnes, si vous êtes dans la grille des personnes qui sont riches à ses yeux. Mais c'est justement ce que rappelle l'étude numéro 3, donc du jour 3, pardon. Et il est présenté dans tout début de cette étude, ça va pour vous, on peut passer au jour 3, ça fait une transition super, c'est que 1 Timothée 5, verset 8, nous parle justement d'un but d'épargne bibliquement acceptable. Je vais lire le verset. « Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. » C'était un des exemples qu'on avait vu dans les leçons précédentes. Et sans doute un des exemples où on devrait avoir une priorité dans nos finances. On l'avait bien compris que, oui, enfant, une fois que nos parents ont besoin de nous un jour, à un moment donné dans leur vie, on devrait, si on est dans les capacités, si on n'est plus à leur charge, etc., pas si on est à leur charge, on est d'accord, mais si on arrive à être autonome dans notre vie, c'est ce qui devrait être notre but, on doit pouvoir soutenir notre famille en premier. Et justement, d'épargner, de mettre de côté, en vue un jour de satisfaire aux besoins de notre famille, alors je pense à nos parents, mais je pense aussi à nos enfants, je pense, etc., ça va dans les deux sens, c'est un bon but d'épargne. C'en est un des exemples parmi tant d'autres. Mais si vous faites ça dans ce but-là, vous avez une bonne raison d'épargner. Et je rappelle encore les autres possibilités pour l'épargne. Vous avez pour donner à votre famille, donc c'est ce qu'on vient de voir, dans les deux sens. Donner à l'église locale, donner aux pasteurs, aux enseignants, aux parents spirituels, donner aux pauvres. On les avait qualifiés de captifs, des personnes qui sont opprimées. Donner aux veuves, aux orphelins, donner à nos frères et sœurs en Christ et donner aux différents ministères. Bon, c'est des exemples. Et d'épargner en vue de faire ce genre de choses est une bonne chose. Mais on va le voir plus en détail par la suite. Parce qu'épargner pour épargner et encore épargner, ça ne sert à rien. Donc il y a du bon d'épargner ou d'investir, mais il y a aussi forcément un moins bon côté. Et on va le voir. 1 Timothée 6, verset 9. C'était dans l'étude. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. On l'a compris, si notre cœur c'est de vouloir être riche, d'avoir les greniers remplis, etc., attention, on est sur une pente très glissante. D'accord ? C'est transparent ce verset, on ne va pas le décortiquer. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. » Et souvent, attention, moi on m'en avertit aussi, les gens prennent ce verset pour dire « Ah, les chrétiens et l'argent, ça ne doit pas matcher. » Ça ne doit pas aller ensemble. Et c'est une idée fausse. Ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Ils se servent de ce verset pour dire que l'argent est néfaste. Mais non. C'est l'envie de posséder de l'argent. Et décrivons bien le problème qui est donné dans ce verset, qui est néfaste. Ok ? Donc, c'est simplement une petite parenthèse. Ne nous laissons pas, en tant que chrétiens, être mis de côté ou simplement rabaissés, etc. Parce qu'on a envie, effectivement, de devenir des gérants fidèles. Et c'est ce désir-là qui aura pour conséquence, dans notre vie, d'abondantes richesses, récoltes, tout ce que vous voulez. Parce qu'on aura cherché à être de bons gérants, on va avoir les conséquences de ça. Ce qui est normal. Et c'est un principe divin et biblique. Ok. La leçon nous demandait, alors vous l'avez étudié, s'il y a ce désir dans notre cœur, et parfois, je vous le confesse, parfois j'ai pu être borderline sur ça parce que je me disais, Seigneur, avec tout ce que je fais et tout ce que j'aspire à avoir, j'ai envie et besoin d'avoir des ressources, etc. Donne-moi-en. Et j'ai commencé à mettre mon cœur sur chercher des richesses, etc. Et pour moi, c'était difficile de faire la part des choses. À un moment, dire, c'est pas le plus important, ça va être la conséquence. Et j'ai dû l'apprendre. Je vous le dis facilement ce soir, je vous l'enseigne facilement. Mais pour moi, c'était une difficulté de dire, ok, Seigneur, tu peux trouver un soupçon d'amour pour l'argent dans mon cœur et j'en veux plus. J'ai pris conscience que c'est pas ça, mais que ça va être une conséquence. Donc viens m'aider. Voilà. Donc oui, vous avez peut-être ce genre de désir. Je vous encourage à le mettre devant Dieu simplement et je peux surtout pas vous juger. Personne peut nous juger. Seul Dieu sait c'est nous conduire sur une autre voie qui est meilleure pour notre bien. Et le verset suivant, c'est 1 Timothée 6, verset 11. « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Je l'ai dit très vite parce qu'on va s'arrêter dessus. Il y a une solution. Il y a une... si on a ce genre de désir dans notre cœur, désir d'aimer ou de rechercher l'argent, il y a une solution. Alors, le premier, pour commencer, c'est la justice. Voilà, excusez-moi. La justice. Si on cherche la justice, c'est quoi ? C'est de rechercher une vie pure, une vie droite devant Dieu. C'est ça la justice. Ça va nous écarter d'aimer l'argent. Bien sûr, c'est des thèmes qui sont assez larges et ça regroupe beaucoup de choses. Mais la justice, c'est ce qui est dans la parole. Recherche la justice. Recherche-la, attache ton cœur à la justice. Et parfois, c'est juste de dire, Seigneur, maintenant, montre-moi. On va décortiquer ensemble ce qu'est la justice selon ton cœur. Le deuxième, c'est la piété. Est-ce que ça vous parle, la piété ? Tiens, moi, j'ai souvent le mot piété qui vient quand je pense à des prêtres, des curés, des moines, enfin, ce genre de personnes. Je dis, tiens. Est-ce que je dois être prêtre ? Est-ce que je dois... Et c'est vrai que c'est un mot qui peut... Mais j'ai un peu creusé et ce qui est piété, selon le cœur de Dieu, c'est d'avoir un attachement fort à Dieu, d'être fortement attaché à Dieu. recherchent la piété. Les gens qui sont pieux, c'est des gens, tu vas tout de suite capter que dans leur vie, ils ont un centre d'intérêt très très fort, c'est Dieu. C'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. Et soyons des personnes pieuses. La foi, une forte confiance dans les choses divines. J'aime dire que la foi, c'est j'ai vraiment confiance de ce que dit Dieu dans sa parole, il va l'accomplir ou il va me le montrer, etc. La foi. L'amour, c'est l'amour fraternel ou la bienveillance mais envers les autres. Quelque chose qui est tourné vers les autres. Si tu tournes vers les autres, tu vas difficilement te tourner vers tes propres désirs. Et donc l'amour de l'argent va commencer à partir. Et je crois que si tu mets l'amour de Dieu à la place, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que ça va... En plus, tu travailles, plus ça va prendre la place. Il en reste deux. La patience. La patience, c'est quoi? C'est une vie ferme et une vie persévérante. Ça me fait penser à la situation de Josué et Clémence. Je crois qu'ils sont patients. Ils sont dans la volonté de Dieu et ils restent fermes et ils restent persévérants jusqu'au moment où il va y avoir une solution, une réponse. Il va y avoir un déblocage. Quoi que ce, dans nos vies, oui, la patience est un des atouts qu'on doit rechercher et le travailler. Le dernier, c'est la douceur. La douceur, c'est quoi? C'est avoir vraiment une gentillesse, une amabilité débordante. Quand Dieu nous demande de rechercher la gentillesse, c'est pas câlin, câlin, gentil, gentil. Hein. C'est vraiment quand Dieu dit qu'il faut rechercher ça, c'est que il y a quelque chose, ou la douceur, je veux dire, c'est que vraiment il faut que ça se dégage de nous et que ce soit palpable par les autres. Ça, c'est l'antidote à l'amour de l'argent. Et ça me parle. Ce soir, je suis pas au top. Et si je me mettais sur la balance de la justice, elle serait peut-être pas à 100%, la piété, etc. J'ai besoin de travailler pour ma vie. Et je vous encourage justement à travailler ça. Et si vous n'avez pas forcément de problème avec l'amour de l'argent, travaillez ça quand même. C'est pas du tout un problème parce que je crois qu'on a besoin de foi. On a besoin d'amour, on a besoin de la justice aussi. Ok, et ça nous permet de passer au quatrième jour. Est-ce que c'est ok pour vous? Vous avez pu prendre des notes? Ça marche? Sur le net, ça va toujours?
Ouais, nickel.
Ok, super. Alors, est-ce que quelqu'un, si vous voulez sortir vos Bibles, ça nous permettra de dispatcher, on a quelques versets. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre Proverbe 24, verset 27? Qui c'est qui veut prendre Proverbe 24, 27? Il faut juste me le dire, je vais donner plusieurs versets. Proverbe 24, 27 par ici. Ok. Proverbe 27, 23 à 24. 27, 23, 24. C'est bon pour Val? Ok. Ecclésiaste 11, verset 2. Sarah, ok. Et le dernier, Ésaïe 48, 17 à 18. Ouais, je sais, je vais le faire moi. Ésaïe 48 pour Clémentine, ok. Ça marche. Alors, c'est parti. Moi, je vais prendre le premier, qui est Proverbe 21, verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. C'était le verset, un des deux versets de la semaine. Alors justement, ce soir, dans le quatrième jour, on va voir quels sont les principes d'investissement qu'on va pouvoir recueillir dans chacun de ces versets. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans ce verset, on est vraiment encouragé à être diligent dans nos investissements, d'agir avec soin et de planifier tranquillement. Jamais, jamais, jamais dans la précipitation. Le monde se sert de la précipitation, de l'instantané. Il faut que vous signiez maintenant, sinon l'offre, elle va vous passer sous le nez. Si une offre de Dieu, une offre divine ne passe jamais sous le nez, je pense quasiment jamais en tout cas, je ne peux pas donner tout le temps des exemples, mais n'est pas à prendre avec précipitation. Je vais juste boire un petit verre d'eau parce que j'en perds la voix. Ok. Surtout, et je pense que sa parole le justifie, si c'était de Dieu, alors sa parole serait contraire. Parce qu'il ne veut pas qu'on agisse précipitamment. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit, comment on appelle ça, quand on repousse toujours au lendemain, et puis au lendemain, etc., la procrastination. Je crois que Dieu fait les choses avec de l'ordre, avec de la sagesse, et il nous laisse du temps. Donc, oui, c'est une technique commerciale. Attention à ceux qui vous proposent des choses qui vont passer dans quelques heures ou le lendemain. Il faut absolument... Et ils vous mettent en état de stress parce que le stress nous fait prendre des décisions. Parfois pas les bonnes. Voilà. Après, ça dépend si c'est pour acheter une baguette de pain ou si c'est pour acheter un appart. Vous savez aussi mesurer les choses. Vous n'allez pas attendre un jour pour acheter une baguette de pain, peut-être. Voilà. C'est la sagesse de Dieu. Qui c'est qui avait Proverbe 24, verset 27 ? Vas-y, Francine, si tu peux le lire avec le micro.
Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison.
Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset, mais j'ai trop aimé ce verset. Parce que ce verset, pour ceux qui ont envie de construire une maison, pour ceux qui ont envie de bâtir, pour ceux qui ont envie d'avancer dans la vie, comme on dit, eh ben, ce verset est fait pour vous. Et qu'est-ce qui nous encourage ? Il dit, avant que tu bâtisses une maison, mets en ordre les travaux au dehors. Alors attention, et les champs, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que, je veux une maison, il faut déjà que j'aille m'acheter un champ, un tracteur, et puis que je sème du blé. Attention. Ça veut dire que ton travail est déjà un travail qui t'assure des revenus, est une maison après avoir mis en ordre une stabilité financière dans ta vie. Pourquoi ? Parce que la maison, ça va sans doute te demander un investissement, ça va sans doute te demander un investissement financier ou du temps, etc. Si ton travail n'est pas déjà réglé, comment tu vas faire quand tu auras ces charges à faire ou à donner, etc. Il y a une clé dans ce verset, il est tout court, mais j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, à nous de le creuser. Dieu va nous donner les moyens d'avoir un revenu suffisant. Il va nous donner les possibilités d'avoir une maison. Mais là, il le dit, avant d'avoir la maison, en fait, c'est surtout qu'il y a sans doute le cas, peut-être pas dans notre groupe, mais des personnes qui se disent, je vais d'abord m'acheter une maison. Papa, maman, est-ce que tu pourrais me payer une maison, par exemple ? Et ensuite, je vais trouver un travail. Et ensuite, et d'abord, je vais être bien, je vais être posé. Vous connaissez le terme, être posé, tranquille. Voilà. Et ensuite, je vais trouver un travail. Et je crois que Dieu, qu'est-ce qu'il fait au travers du travail ? Il éprouve notre caractère. Donc, c'est ce qui est difficile de manifester envers Dieu, de dire, oh, Seigneur, accorde-moi une maison. Et t'inquiète, je vais être vraiment un bosseur après, je vais être celui qui... Non, Dieu fait les choses à l'inverse. Montre que t'es un bosseur, montre que tu vas prendre soin de cette maison, montre que je peux te confier une maison, etc. Ou quand on dit maison, c'est un endroit où bâtir, quoi, ou quelque chose qui est dans le sol, quelque chose qui est solide, ok ? Un appart, c'est aussi une maison. Mais faisons les choses à l'endroit. Et pour Dieu, c'est d'abord d'avoir un travail. Vas-y, si tu as une question, Ghislaine.
Moi, dans ce verset, je ne l'ai pas compris seulement du point de vue matériel, terrestre, mais aussi du point de vue spirituel. Mais d'abord, tes affaires en ordre, c'est aussi dans notre cœur, parce que notre cœur, c'est aussi un champ. Donc, si en nous, je ne sais pas, moi, c'est la pagaille, je ne sais pas, on ne s'entend pas avec ses parents, ses frères et sœurs, sa femme, ses gosses. Il faut déjà que la vie spirituelle soit en ordre. Notre cœur, c'est un champ, quoi. Donc, déjà... C'est tout, c'est un tout en fait, le matériel et aussi le spirituel, d'abord en ordre, avant d'acheter une maison.
Ok, super, si ça te parle de cette manière-là. Et puis souvent les gens, ça me fait penser que parfois on veut se marier, parfois on veut faire des rencontres, etc. Et puis dans notre propre cœur, c'est comme tu dis, la pagaille. Et effectivement, c'est mieux, et Dieu nous y encourage vraiment, tiens, laisse-moi juste guérir ton cœur, laisse-moi faire des choses dans ta vie, et puis ensuite, engage-toi et aie un foyer, une maison, etc. Donc, bon, en tout cas, moi, je l'ai pris d'un aspect très, très pratique, que celui qui veut construire, qu'il mette d'abord de l'ordre dans ses champs. Ok, Proverbe 27, verset 23-24. Vas-y.
C'est bon. 23-24, c'est ça ?
Oui.
Alors, sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours, même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment.
Ok. C'est assez parlant, mais effectivement, lorsqu'on a des possessions, on a des choses, on est tenu responsable de ces choses. Et Dieu nous les confie, on l'a vu dans les sessions précédentes, qu'on est des gérants. Et un gérant connaît l'état de ses troupeaux, l'état de ses champs, etc. Tout ce que nous avons, nos biens, on doit pouvoir en rendre compte, attention. Surtout ceux dont on tire un revenu. C'est important de savoir où c'est qu'on va, etc. Et puis si on se dit, bah, sans doute que la récolte va bien venir, mais impossible de se projeter. Donc, la parole nous encourage d'être bien au courant de l'état de ton bétail, donc de ceux dont tu vas tirer ta nourriture, dans le contexte biblique, on est d'accord. Le verset suivant, c'était moi qui l'avais, c'est Ecclésiaste 3, verset 1. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Alors ça, c'est un verset souvent qu'on utilise pour justifier plein de choses, etc., ou pour encourager les personnes, mais t'inquiète pas, ça devait arriver, etc. Mais oui, il y a une certaine vérité derrière, une vérité tout à fait réelle, c'est qu'il y a un temps approprié pour toute chose. C'est surtout ça. Je prends pas ce verset comme sous la coupelle du fatalisme du destin. Attention, moi je refuse de croire au destin. Je crois que Dieu a une destinée par contre, et c'est différent parce que certains nous disent ouais je crois au destin, ce qui doit arriver arrive. Non, mais les choses arrivent à un temps approprié, et lorsqu'on a donné notre cœur et notre vie à Jésus, à Dieu, c'est approprié qu'il se passe des choses à un temps donné dans nos vies. Donc, parfois, c'est simplement de l'accepter, d'en prendre conscience et puis d'avancer. Ça vous parle ? Le suivant, Ecclésiaste 11, verset 2. C'était le dernier verset. C'était Clémentine ou Francine ? Ah oui, alors c'était... Toi, tu avais Isaïe. Non, c'était Sarah, pardon. Vas-y, Sarah. S'il est orange, il faut juste cliquer une fois.
Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre.
Excellent. Alors c'est bien en plus, Sarah, que tu l'aies eu ce verset, parce que c'est d'un point de vue business, c'est une clé. D'un point de vue hors business aussi, attention, lorsque vous allez investir, l'expression qui dit ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est ce qui traduit un petit peu ce verset. C'est important de diversifier nos investissements. Si maintenant j'investis, dans l'immobilier, investissez et j'investis tout mon potentiel financier dans l'immobilier à un endroit. C'est pas forcément très bon parce que si le domaine de l'immobilier se crache, on va dire, vous aurez tout investi dedans. Mais si vous avez mis dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans l'homme, dans le social, etc., si vous avez des possibilités vastes d'investissement, faites-le. Et c'est ce que la parole nous indique. Et parfois, les saisons ne sont pas pareilles dans chaque domaine et peuvent produire des récoltes différentes. On va le voir tout à l'heure aussi. Vas-y, Francine.
Moi, j'avais une autre version. Jette ton pain. J'ai rien compris. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et c'est vrai que la version que Sarah a lue est beaucoup plus claire.
Oui.
Mais parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de jeter ton pain à la surface des eaux? Alors, voilà. Mais par contre, nous, à la banque, on utilise beaucoup le principe de la diversification.
D'accord.
On conseille ça, en fait, aux clients. On dit toujours, il ne faut jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais je ne savais pas que c'était un principe biblique, donc je vais d'autant plus l'utiliser.
Carrément, carrément. Parfois, on a, popularisé les versets, mais c'est inversé.
J'avais juste un commentaire, parce que dans ton explication, je fais comment pour investir dans tous ces domaines, parce que je suis pas riche au point d'éparpiller mes richesses. Alors je me suis un peu appliqué à moi ce verset et j'ai dit ne pas placer sa richesse dans un seul secteur, domaine ou savoir, compétence, qui est aussi maintenant si je sais pas j'ai pris le cas avec mon épouse si je suis forgeron et qu'il m'arrive un accident et que je peux plus exercer mon métier, si je savais faire que forgeron, je vais me retrouver sans rien. Alors que si j'ai appris plusieurs métiers qui permettent la tête, les bras, les jambes, etc. S'il m'arrive quelque chose, comme sur le monde, il peut arriver quelque chose dans le marché de l'immobilier, je pourrais toujours faire quelque chose d'autre et continuer à gagner ma vie. Voilà.
Super, je trouve vachement encourageant ton explication. Et puis, c'est valable, à mon avis, c'est tout à fait valable. On a des capacités, des talents que Dieu nous donne. Je pense qu'ils sont multiples. Elles sont avec un S au bout. Et c'est très bien. On a vu que ça honore Dieu de les développer. Dieu investit des choses en nous. Dieu n'est jamais sans solution aussi. Attention, n'ayons pas peur et n'agissons pas par peur qu'il y ait un crash, qu'il y ait un problème, qu'il y ait un accident, etc. Ne le faisons pas pour ça. Mais les conséquences sont qu'en cas de ces situations-là, nous aurons des solutions. Avec Dieu, il y aura toujours des solutions, mais nous sommes responsables de tout ce qu'il investit en nous, de le faire fructifier. On l'avait vu aussi précédemment, donc c'est impeccable. Et puis, effectivement, des étudiants qui prennent cette formation, comment ils font pour investir? Là, c'est aussi des explications pour plus tard, dire « Ok, c'est important de le savoir parce que j'aurais peut-être eu tendance à mettre mon capital financier dans un seul domaine alors que c'était pas forcément un bon conseil. » Très bien. Merci en tout cas pour ton partage. Et vas-y Clémentine pour le dernier verset.
Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer.
Super. C'est important, et on le sait vraiment tous, mais de l'entendre ce soir, de l'entendre au cours de notre vie, de prendre les conseils auprès du Seigneur, c'est lui qui sait exactement comment faire. C'est vers lui qu'on aura le meilleur des conseils. Ne négligeons pas son inspiration, et lorsqu'on a des décisions à prendre, appuyons-nous sur lui. C'est important, simplement, de l'entendre. Et Ésaïe 48, versets 17 à 18, ce que vient de dire Clémentine, c'était ça. Mais ce soir, j'aimerais donc, pour continuer la leçon, j'ai un peu creusé entre les lignes. J'aimerais vous parler d'une clé importante qui, selon moi, est à retenir lorsqu'on pense à épargner. J'en ai un petit peu parlé avant, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez ce terme? Le terme, c'est la thésaurisation. Alors certains sont avisés, Francine, très bien. La thésaurisation, ça, c'est bizarre. Moi, quand j'ai entendu la première fois ce terme, je pensais que c'était pour les scientifiques qui font des thèses et qui vont faire ça. Mais c'est pas ça. La thésaurisation, c'est le fait de mettre de l'argent de côté sans le dépenser ni le faire fructifier. En gros, j'en mets de côté, je le dépense pas et je l'investis pas. Et ça, c'est un danger. Ça s'appelle la thésaurisation, c'est T-H-E-S-A-U-risation. C'est un danger de faire des réserves pour faire des réserves. Si le but de faire des réserves, c'est pour avoir des réserves, seulement, c'est un problème. Le fait est d'accumuler des biens sans réellement savoir pourquoi. Et ça, c'est un problème selon Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on place plus sa confiance en Dieu, on la place dans nos réserves. C'était un petit peu ce qu'avait fait le riche insensé lorsque Jésus en parlait dans sa parabole. Donc, ça c'était simplement pour dire ce qu'est la thésaurisation. Donc, quand on pense à épargner, d'un point de vue biblique, d'un point de vue de Dieu, qu'est-ce que je vous encourage ce soir à faire ? C'est de définir un plafond maximum que vous voulez atteindre. Très important. Vous avez un conjoint, vous dites « Ok, tous les mois, on va mettre 100 euros de côté jusqu'à atteindre 10 000. » Et à 10 000, on aura atteint notre objectif, on va se servir de ces 10 000. Ça, c'est le premier cas. Ou plus, ou 100 000, ou mettez des objectifs qui sont plus ou moins atteignables. Okay, même si on a la foi, si vous dites au bout de 5 millions, on arrêtera. Ça va être difficile et vous serez frustré. La deuxième, c'est de définir une date à laquelle vous allez dire « Stop, on arrêtera de mettre de côté. » Nous, perso, on a un livret d'épargne, etc., jusqu'à une certaine date. Et à cette date-là, on sait qu'on ne va pas encore continuer juste pour continuer. On aura atteint un objectif et il sera validé. Donc, soit un plafond atteignable, soit une date limite. Et le troisième point, c'est que vous avez défini un objectif pour l'argent épargné. Si c'est juste épargner pour épargner, ça ne sert à rien. D'accord ? Si vous mettez tous les mois 50 euros de côté parce qu'à la fin, vous voulez vous payer une guitare, c'est un super objectif et vous allez être motivé pour mettre ces 50 euros de côté. Si c'est de mettre 1000 euros ou 10 000 euros par mois parce que vous voulez vous payer un appart, eh bien, c'est un bon objectif. Mais vous avez un objectif. Vous avez une sorte de carotte devant votre épargne. Et peut-être que c'est logique pour vous, peut-être que vous faites ça très naturellement, mais j'ai recueilli sur le net deux histoires et ça m'a fait mal. La première, vous l'avez peut-être entendue déjà, elle s'appelle Henrietta Green. C'était une femme qui a vécu dans les années 1900, etc., au début 1900. Et c'était, je crois qu'elle est dans le Guinness des records, en tout cas c'est le net qui dit ça comme ça. C'est la femme la plus avare du monde. Elle gagnait des millions de dollars à l'année. Elle en avait vraiment un max. Et en fait, elle est morte en 1916. Elle a fait un AVC parce qu'elle se disputait sur le prix du lait avec quelqu'un. Voilà, je ne sais pas, chez le laitier, elle s'est mise en colère. C'est ce que le net décrit. Alors peut-être que c'est exagéré, mais elle est connue de ce fait-là. La deuxième histoire, c'était un homme qui était tellement riche. Je l'ai lu dans ce livre, je crois. C'est que chez lui, à la maison, il avait une superbe villa, un truc, tout ce qu'il fallait. Et il a fait installer dans sa maison un téléphone, comme ça, sur le mur, peu importe. Pour que quand ses amis qui venaient à la maison, c'était encore à l'époque, on n'avait pas les forfaits illimités, venaient à la maison, ils avaient besoin de passer un coup de fil, ils prenaient ce téléphone-là, mais ce téléphone, il était payant. Ça veut dire que le coup de fil qui passait, ça lui donnait une com au gars. Ça lui remboursait le coup de fil, en fait. Voilà. Tellement il ne voulait pas qu'il dépense. Voilà. C'est des situations vraiment, vraiment exagérées, mais elles ont existé et il y en a plusieurs autres. Mais pourquoi tout ça pour ne pas dépenser ? Et le problème, et je le confronte ce soir, c'est le fait de ne pas vouloir dépenser parce que notre cœur est attaché à l'argent. Et on avait vu dans la première leçon justement que l'esprit de Mammon, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui conduit ces personnes à agir de cette sorte-là. C'est pas normal, ok ? Et l'esprit de Mammon justement nous donne le sentiment de ressentir au fond de nous-mêmes d'avoir un manque vraiment d'argent, particulièrement d'argent. Et du coup, ça va produire des conséquences en nous qui nous poussent à être économes, avares. Économes, c'est encore léger, avares, etc. Vous comprenez ? Donc ça ne sert à rien d'accumuler. Accumuler, c'est pas, et on le voit dans la parole de Dieu, accumuler, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que Dieu désire, pardon, qu'on fasse et qu'on soit plutôt un canal de bénédiction. Et c'est là que c'est toute la différence entre les personnes. La fois dernière, on a vu une personne riche et une personne fortunée. Une personne fortunée a compris les principes de Dieu, les met en application et devient riche. Une personne riche ne peut peut-être ne pas les avoir compris, certainement, et peut, attention, glisser et devenir avare, etc. Et vivre des situations comme on les a entendues. Donc, résumé, faites des économies, c'est très bien, dans un but précis, et quand la somme est atteinte, vous la libérez pour accomplir vos objectifs, les objectifs que Dieu vous a inspirés. D'accord ? On est en étroite collaboration avec le Seigneur et du coup, on aura du succès dans nos investissements. Ok, j'aimerais compléter. Je continue, c'était un petit peu en dehors, c'est du hors-piste. On est en hiver, ça vous rappelle un petit peu les chalets, les skis, on va faire du hors-piste. Et j'aimerais compléter notre chapitre par une petite étude sur un thème biblique. Vous allez le retrouver dans la Bible. En rapport avec l'investissement, et on l'a peut-être déjà évoqué, on va parler d'agriculture. Oh là là. Oui, on va parler de semer et de récolter. On a tous entendu, vous allez dire, ok, moi je connais tous les principes et tout ça, j'aurais pu rouler un tracteur comme personne, etc. Non, je crois qu'il y a des bonnes choses. Il y a des principes importants à connaître et c'est bon de les entendre. Et ce soir, vous allez les entendre. Alors, le royaume de Dieu a son propre système d'investissement. Il y a une façon, il y a un système, il y a une logique qui s'appelle les semailles, le principe des semailles et de la moisson. On le connaît. Mais avant de vous présenter donc les aspects de ce système, j'aimerais vous placer dans le bon contexte. Et souvent, on est nombreux à le faire, c'est ça que je veux dire. Quand on fait un don à l'église, une personne, un ministère, une assoce, peu importe, avec le cœur pour Dieu, on est là, on dit « Seigneur, je l'ai vraiment fait pour t'honorer, etc. » On fait un don qui est très bien. On parle de semer pour le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord ? Souvent, on dit « Ah, là, j'ai semé. Tiens, dans ta vie, je vais semer. Ah, sois béni. Oh, Seigneur, merci. » Et puis, c'est très bien. Franchement, ça peut être complètement guidé de Dieu. Mais dans les termes, on dit « J'ai semé pour le royaume de Dieu », par exemple. C'est juste, d'une certaine façon, mais si ça s'arrête là, il y a une nuance à comprendre. Vous allez comprendre. Le principal but du don et de la générosité, c'est de bénir quelqu'un d'autre. D'accord ? Ça, c'est le principal but. Et stop, et ça s'arrête là. On bénit l'autre personne. Stop, on s'arrête là. Elle était bénie. Même, on sait, on a appris que Dieu nous donne quand même des bénéfices. On crédite notre compte céleste, etc. Je suis d'accord, parce que certains me regardent avec des airs. Mince, j'ai fait ça, du coup, j'ai pas crédité mon compte. Ah, je pensais... Non, non, vous inquiétez pas. Oui, ça crédite notre compte, et c'est très bien de le faire. Mais le but du don ou de la générosité, c'est l'autre personne, ou le ministère, etc. Ça sort de nous et ça s'arrête. Par contre, quand on décide de semer, et de moissonner. On a la ferme, solide, assurée intention de vouloir récolter, d'avoir un retour, une récolte, une moisson, une quantité palpable qui nous revient. Vous êtes d'accord ? Kurtz faisait l'exemple quand il était là, il disait « Ah, je sème, je suis fermier, je sème, peu importe ce qu'il y aura, mais j'ai semé, c'est très bien, j'ai semé, tu arroses Seigneur, etc. » C'est fou de faire ça, on est d'accord ? De se placer juste intellectuel. Mais est-ce que vous croyez qu'on ne le fait pas ? Moi, je me suis repris, je dis, Seigneur, il y a beaucoup de semences que j'ai laissées tomber au sol, que j'ai semées même, et je n'ai pas assuré derrière. C'est là où il y a la nuance, vous comprenez ? C'est si on dit qu'on a semé pour le royaume de Dieu, ça ne peut pas juste s'arrêter là, et c'est ce qui vient maintenant. L'exemple du fermier, c'est justement, c'est exactement pareil pour Dieu. On va en voir les principes. Donc ça, c'était juste pour vous placer dans le bon contexte et c'était pour que ce soir, on puisse se mettre tous dans la peau d'un agriculteur. Alors, on va voir plusieurs principes, plusieurs points clés. On va voir comment avoir une récolte optimale, d'accord ? Parce qu'on a vu que la semence, c'est vraiment s'attendre à un retour et il n'y a aucun problème, d'après le cœur de Dieu, de s'attendre à un cœur, de s'attendre à un retour, d'accord ? C'est pas du tout un problème. On va prendre le verset dans Marc 4, versets 26 à 29. Prenons ce verset. Vous l'avez déjà entendu. Mais vous pouvez prendre note, vous le lirez à la maison, vous écoutez-le bien. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe, et pousse sans qu'il sache comment. » D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y passe, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Ok, on va voir ce soir le point numéro 1, qui est le fermier a des responsabilités, lesquelles on va les voir. La première responsabilité, c'est ok pour vous ? Je ne suis pas trop vite, sinon, écrivez plus vite. La manière dont il sème. La quantité qu'il va semer. La manière et la quantité qu'il va semer. Un fermier sème toujours en étant sûr que ce qu'il sème, il va pouvoir prendre soin. Vous avez compris ? Il ne sème pas 10 millions d'hectares et il disait « je vais réussir à prendre soin que de 1000 hectares ». Les autres, ça prendra soin tout seul. Non, il est sûr de la quantité qu'il va semer. Le deuxième point, c'est la saison durant laquelle il va semer. Il ne sème pas n'importe quand, il y a une saison pour semer. Je vais essayer d'aller assez vite, vous reprendrez la leçon parce que le temps passe. Le troisième point, c'est l'endroit, le terrain dans lequel il sème. Dans quel champ je vais semer ? Il se pose toujours cette question-là, parce qu'il a le choix. Et ensuite, il est responsable de la préparation du terrain. Vous connaissez le terme labourer ? Ben oui, il y a une préparation du terrain. Une fois qu'il a semé, il irrigue son champ, s'il faut, il en prend soin. Il ajoute des nutriments, après on ne va pas rentrer dans les détails, s'il faut il en rajoute. Et surtout, il chasse les nuisibles, tout ce qui pourrait porter atteinte à sa récolte. Pourquoi ? Parce que avant de semer, il s'est dit « je veux la récolte optimale, je vais faire en sorte de l'avoir ». Tout ce qui est sous ma responsabilité, je vais faire. Le reste, je peux pas influencer. Et le dernier point, c'est qu'il récolte. Et quand il récolte, il y travaille sans relâche. Il y va, il récolte. Il veut la récolte optimale, donc c'est parti, il booste. Donc ça, c'était le premier point, c'est le fermier qui a des responsabilités. Le deuxième point, c'est que le fermier n'est pas responsable de, à votre avis, qu'est-ce qu'il n'est pas responsable ? Exactement, il n'est pas responsable de la croissance. C'est le verset qu'on vient de lire. C'est peu importe, il se couche, il se lève, il mange, il boit, il dort. La terre fait croître. Et ça, c'est le travail de Dieu. Dieu fait croître la semence. S'il n'y a pas de semence, Dieu ne peut pas faire croître. Si le fermier n'a pas l'intention de récolter, mais qu'il a semé, Dieu va faire croître quand même, vous êtes d'accord ? Mais qu'est-ce que va produire la récolte ? Du gâchis. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du fermier. Ça, c'était le deuxième point. Très court, la responsabilité qui n'est pas celle du fermier, c'est la croissance. Le troisième point, et le dernier, c'est que le fermier va utiliser sa récolte d'une manière précise. Il a fait son travail excellent, il a semé, il a récolté, il en a plein les greniers. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette récolte? C'est important de le comprendre. Une partie, il va prendre une partie pour réensemencer. Donc je réinvestis. Ça, c'est la première partie, il va réensemencer. La deuxième partie, c'est qu'il va en prendre une partie, il va la convertir en argent, il va vendre et il va s'acheter de quoi vivre. Il va s'acheter de quoi répondre à ses propres besoins, ce qui est tout à fait normal en fait. Et il va utiliser cette même partie-là, une partie de cette partie, pour donner aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on a compris, parce que ce fermier a compris que ce n'est pas juste pour ses propres besoins qu'il reçoit des récoltes, c'est pour les autres aussi, c'est pour Dieu. Et la troisième partie, il va en garder, il va faire des réserves, au cas où il y a une urgence. Diligemment, une certaine quantité, pesée, mesurée, il en garde une de côté. D'accord ? Donc trois parties. Première, réensemencer. Deuxième, investir, dépenser, etc. pour mes propres besoins et mes désirs aussi, mes plaisirs, tout ça. Et la troisième, c'est une épargne. D'accord ? Vu qu'on est dans le sujet. Donc tout ça, vous l'avez bien compris. Là, on était un peu dans le contexte agriculturel. Je ne sais pas comment on dit. Agricole, exactement, qu'est-ce que je dis agriculturel? Alors là, c'est couper ce passage sur la vidéo, s'il vous plaît. Mais, purée, ouais, ça c'est la fatigue. Mais on doit tout transposer au domaine des semences financières selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord? J'aimerais vous donner un petit rappel. Dieu est notre source, on est d'accord. Il pourvoit à nos besoins fondamentaux, d'accord, qui sont la nourriture, le vêtement, etc. Selon quoi? La foi du moineau. Là, je reviens vraiment dans toutes les leçons, je fais un petit rappel. C'est le cycle financier. Dieu pourvoit, c'est lui la base. Parfois, on pense que c'est nous qui avons notre salaire et on commence le cycle. Non, c'est lui. Il répond à nos besoins. Pour l'instant, c'est que nos besoins. On a la foi du moineau qui croit avec assurance qu'il le fait. Ensuite, de ces besoins-là, de cette somme qu'il nous donne, qu'il nous alloue, qu'il nous confie, il peut nous demander de faire, avec une partie, des dons. Ce qui crédite notre compte céleste dans le ciel. Jésus a la responsabilité, c'est pas nous qui l'avons décidé, il veille sur ce compte de trésor dans le ciel, et il le multiplie. Donc ça commence à s'agrandir là-haut dans le ciel. Okay ? Alors qu'on donne la dîme, les écluses des cieux sont ouvertes pour notre vie et on peut commencer à expérimenter des choses incroyables avec Dieu qui répond à nos besoins. Les besoins tout d'abord de notre cercle fermé. Vous vous souvenez ? Le cercle fermé qui est fermé pour la raison suivante, c'est que on ne dépense que ce que on sait où va notre argent et on le dépense pour des besoins, des nécessités, des désirs et des obligations. D'accord ? Et là, si tous ces besoins, ces désirs, ces obligations sont satisfaits, on est bien, mais qu'il y ait encore de la ressource, de la récolte, on se place dans le cas où on peut alors semer. Et c'est là que c'est important de comprendre, parce que certaines personnes vont semer sur leur cercle fermé, c'est-à-dire qu'ils vont prendre sur les ressources qu'ils avaient attribuées pour leurs besoins, pour leurs désirs, pour leurs obligations. Et attention, c'est possible, si Dieu vous le demande, c'est possible de faire parfois une concession sur un désir et de dire « je vais plutôt vraiment semer ». Mais on va voir que semer, c'est pas juste donner. Mais comprenez bien qu'il est préférable que vous semiez avec des récoltes qui sont en surplus de votre cercle, d'accord ? Quand vous avez les capacités de pouvoir vraiment semer. On va le voir. Toujours en collaboration étroite avec ce que le Seigneur nous inspire, d'accord ? Et j'aimerais que vous donniez quelques principes pour la semence financière selon le cœur de Dieu. Le premier principe, c'est une question, c'est combien de temps faut-il pour avoir une récolte ? Souvent, on peut se demander, tiens, combien de temps ? Et ça va définir le principe. Dans le domaine naturel, on peut le définir. On sait à peu près que quand on sème du maïs, on sait à peu près quand c'est qu'on va pouvoir le récolter. Dans le domaine spirituel, ce qui est super intéressant, c'est que, j'ai noté dans mes notes, oui, Dieu peut multiplier instantanément, vous êtes d'accord ? Quand il a multiplié les pains, les poissons, etc., il l'a fait direct. Là, ils ont vu une multiplication instantanée. Mais bien souvent, la récolte, donc à ce qu'on a semé, vient quand ? Et selon Dieu, c'est quand les desseins de Dieu ont été accomplis. Et bien souvent, j'en ai parlé au début de la leçon, Dieu travaille notre caractère. Il travaille pas le fruit, il travaille pas la récolte, il travaille pas le nombre. Pour lui, c'est pas un problème. Comme ça, il peut créer un univers, je crois, en claquant des doigts. Donc la quantité, la masse, c'est pas ça le problème. C'est ce qui l'intéresse, c'est de voir nous, notre caractère qui est transformé et comment il peut être transformé. Et le principe qu'il y en a, qu'il en ressort, le plus important, c'est peut-être que il veut voir ma façon d'intercéder pour la récolte. Vous vous souvenez, le fermier, il protège sa récolte pour qu'elle soit optimale. Il chasse les nuisibles. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Peut-être que vous avez investi dans une œuvre missionnaire. Et c'est l'exemple que je vais vous lire tout à l'heure, ou peut-être pas, je vais vous l'envoyer parce que c'est long. Voilà, vous avez investi dans une œuvre missionnaire. Cette œuvre missionnaire, elle a des défis énormes, etc. Et vous êtes là, vous avez décidé d'investir du temps pour prier, déclarer et pour même combattre spirituellement. Et c'est peut-être ce que Dieu voulait développer en vous. Une fois que ça, c'est vraiment, ça a pris place dans votre vie, vous avez compris, vous avez expérimenté de ça, vous n'avez pas juste goûté un petit peu, j'ai prié pour toi et tout ça. Non, non, j'ai vraiment galéré à tes côtés, j'ai prié, j'ai intercédé. Boum, la récolte arrive. Et elle peut arriver, on va le voir, de bien des manières. Donc le premier, c'est que vient la récolte ? Quand les desseins de Dieu, quand les objectifs, le but de Dieu est accompli. Et ça, parfois on le sait, parfois on ne le sait pas trop. Donc il ne faut pas mettre le focus sur le temps de la récolte, mais il faut croire qu'elle va arriver. Le deuxième, c'est l'emploi de la récolte doit être dirigé par le Seigneur. Et en fait, si vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué avant, c'est bon de prier et de dire « Seigneur ». Cette récolte, donc ce surplus que j'ai à mon cercle, est-ce que je le donne ? Est-ce qu'il s'agit de donner ? Vous savez, là où, une fois que c'est donné, je ne m'y intéresse plus. Et c'est là où l'agriculteur, quand il sème, il prend soin derrière, il y a du travail. Est-ce que, Seigneur, il s'agit de donner ou est-ce qu'il s'agit de semer ? Quand il s'agit de semer, j'ai compris, j'ai pris conscience que c'est pas juste de donner, sois béni, je prie pour toi, je lui impose les mains, les pieds, ce que vous voulez. Et puis ensuite, non, il y a du temps derrière. Est-ce que vous avez mesuré que là où vous avez semé, attention, moi je veux un retour, Seigneur, et je prie pour la récolte optimale. Vous avez le droit de prier pour le rendement, mais vous n'avez pas le droit de, vous pouvez pas prier pour la façon dont Dieu va le faire. Vous avez le droit de dire, Seigneur, je veux un rendement optimal de ma récolte. Je veux qu'aucune parcelle de mon champ soit, j'en sais rien, dévastée ou que les oiseaux viennent, etc. Non, je veux du 100%, Seigneur. Et là, c'est le combat spirituel. C'est là où la semence, selon le principe de Dieu, rentre en compte. Vous avez compris ? Ça vous parle ? Donc, Seigneur, est-ce qu'il s'agit de donner ou de semer ? J'ai compris que donner, c'est super, c'est un acte de générosité et d'amour. Semer, c'est du travail. Et je ne sais pas si je l'ai noté dans mes notes, mais l'auteur dont je m'inspire disait que plus il y a de travail, plus grande est la récolte. Plus je travaille, plus je suis là, prier, plus je suis là. C'est pas seulement forcément prier. Parfois, c'est être dans le, c'est être aux côtés des gars, c'est leur apporter un vrai soutien physique. Enfin, il y a différentes façons. Plus je travaille, plus il y a de travail, pardon. C'est pas plus je travaille, on est d'accord. Plus il y a de travail, souvent et très très souvent, plus grande est la récolte. Parce que le travail a été important avant. Le deuxième point, c'est où est-ce que j'investis ? Tous les terrains ne peuvent pas produire au centuple. Si vous plantez du maïs dans de la terre glaise, ça risque de ne pas prendre. Enfin, perso, je ne crois pas. Donc, il y a une façon de semer. Il y a une façon de. Il y a, tous les terrains ne vont pas avoir le même rendement. Et c'est ce qu'on parlait avant. Le but est de placer ces investissements dans plusieurs domaines. Mais c'est important de comprendre, si je veux un rendement optimal, peut-être qu'il faut absolument que je place mes ressources dans un domaine. Et ça, il n'y a que Dieu pour nous le montrer. Le troisième point, c'est que la moisson peut être disproportionnée par rapport à la semence. Et ça, c'est un principe biblique. Si on sème du blé, on est d'accord, on va récolter du blé. Ça, c'est dans le côté naturel. Mais avec Dieu, parfois, vous allez semer financièrement dans la vie d'une personne et la récolte va être que votre famille va être bénie d'une façon incroyable, que toutes les portes vont s'ouvrir. Souvent, vous avez déjà entendu des pasteurs qui disent « Faites cette offrande !» Ça, c'est un peu du côté abusif, etc. Et votre vie va se porter mieux, vous allez rencontrer la femme de votre vie, etc. Alors, je crois, et peut-être pas de cette manière-là, mais je crois que Dieu, quand on sème financièrement, ne nous donne pas forcément une récolte financière. On est d'accord ? C'est pour ça qu'elle est disproportionnée. C'est possible qu'elle soit disproportionnée, d'accord ? Donc, ne nous mettons pas en tête que la somme ou la quantité doit être proportionnelle à ce que je vais recevoir. Et moi, j'espère pas, parce que du coup, Dieu n'aurait pas pu multiplier. Et j'aspire à ce que Dieu multiplie. Et parfois, il multiplie, il change le passage qu'il a plu, j'ai pas noté, mais c'est quand Paul dit voilà, j'ai travaillé, j'ai investi pour vous, pourquoi n'aurais-je pas aussi le droit au fruit de votre ou le fruit de mon travail, au fruit de votre travail, etc. Je connais plus tout à fait les termes, mais bibliquement, je peux vous le soutenir aussi. Je peux vous l'appuyer, je peux vous le montrer si vous en avez envie. Et le dernier point, c'est surtout ne pas semer plus, et ça m'a vraiment parlé, j'ai été repris, que ce qu'on peut surveiller par la prière ou le combat spirituel. Et combien de temps on est prêt à investir pour notre semence. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, oui, je crois qu'il y a des semences qui sont tombées à terre et qui n'ont pas porté de fruits. Et ça, c'est dommage. Ok ? Ici, j'avais prévu justement de vous donner le témoignage d'un des auteurs qui s'appelle Earl Pitts et qui justement dit « Seigneur, j'ai compris qu'il fallait donner ma dîme, j'ai compris qu'il fallait donner, enfin qu'il fallait qu'avec des offrandes on était bénis, etc. » Et Dieu lui a vraiment conduit avec sa femme d'investir dans une mission, dire « Maintenant, tu vas investir une somme qu'ils avaient en surplus dans leur compte et tu vas voir qu'il va y avoir une récolte, vraiment une récolte. » Je vous la fais en raccourci. Et ils ont dit OK. Ils ont investi. Et cette personne, ils ont dit on va te soutenir dans la prière. On va intercéder quand tu as des problèmes. On va être là. Tu peux nous donner des retours. On est là. On est avec toi. Et un jour, ils ont eu un montant. Dieu l'a vraiment béni financièrement pour qu'ils comprennent. Et ils ont pleuré. Ils ne savaient pas s'ils devaient pleurer ou rire. Ils disaient dans le livre. Je pourrais vous donner l'histoire et vous la lirez. Mais. On ne prendra pas le temps ce soir. Mais en tout cas, vous pouvez demander à Dieu, « Seigneur, ce principe de semer et récolter, je ne l'ai pas très bien compris. Maintenant, aide-moi. Vous n'avez pas besoin d'investir 100 000 euros. Vous n'avez pas besoin. Faites-le dans les petites choses. Puis vous allez voir que Dieu va être fidèle et puis il va vous enseigner. Et il va vous bénir. » Ça marche ? Alors, je vais passer très courtement sur les deux jours suivants. On en a peut-être pour un quart d'heure. Ça va aller pour ceux Ça va aller pour vous? Je vais y aller. On a pris du temps un petit peu au début, mais c'est aussi important de comprendre ce qu'il y a à la fin. Alors, pour le jour numéro 5, vous avez les versets, vous les avez travaillés, etc. J'aimerais prendre le Proverbe 13, verset 22, qui dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » Je pense qu'on va le revoir au cours des leçons, mais dans ce passage, on voit que l'héritage, c'est pas pour vos enfants, mais un héritage doit être pensé pour ses petits-enfants. Peut-être que je vous l'ai déjà dit entre quatre yeux, mais dans la pensée du Seigneur, pourquoi il pense que c'est mieux de donner un héritage à ses petits-enfants? C'est si logiquement, vous avez été un gérant fidèle tout au long de votre vie, vos enfants que vous avez bénis, pris soin, etc., sont normalement équipés pour rentrer dans la vie. Et c'est au moment de rentrer dans la vie active, etc., ou qu'il y a l'héritage à donner, c'est que ce sont vos petits-enfants qui ont besoin de ressources, et vos enfants, oui, disposent aussi eux-mêmes de ressources, mais qui sont pour leurs petits-enfants, et ainsi la boucle est fermée, enfin, roule plutôt. Est-ce que vous avez compris? C'est que si on bénit plus loin que la prochaine génération, c'est que, bah, je prends l'exemple, par exemple, Raymond Josiane, l'héritage, si maintenant le but de votre héritage, ce serait de bénir Mathilde et moi, on arrive à s'assumer, etc. Bien sûr, on pourrait toujours avoir plus, mais pour avoir plus, ça sert à rien. Par contre, si maintenant l'héritage venait à Hélène ou aux autres petits-enfants de Bastien, etc., et il y a une prospérité qui se met déjà en place. Après, je parle aussi qu'il faut bien sûr investir la fortune, vous savez, la mentalité de gérer ses ressources, parce que ça vient pas juste tout seul par l'héritage, on est d'accord. Mais Dieu, dans sa parole, et c'est intéressant de creuser, on va pas le développer plus, mais que l'héritage, c'est pour les petits-enfants. Et que nos enfants, bien sûr, on va en prendre soin, on va investir pour eux, etc. Et une fois qu'on arrive à mettre un cycle comme ça en place, Dieu est toujours trigénérationnel dans ses bénédictions, et voire plus. Ok. Donc oui, les parents devraient s'efforcer de transmettre un héritage matériel. Là, on est vraiment dans du oui, ben on peut leur transmettre les bonnes valeurs, etc. Les enseignements, ça c'est normal. C'est aussi un héritage. Mais là, on est aussi dans le concret, dans le matériel. Et vous le voyez, des familles qui vivent ça, vivent moins de problèmes. Les enfants ne sont pas en galère, etc. Et puis s'attachent à d'autres choses que de juste essayer de se sortir des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Proverbe 20, verset 21. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. C'est un des versets qui est assez fort. Si un héritage est confié à un enfant qui est trop petit pour comprendre, pour gérer ses biens, ça va être un problème pour lui de le gérer. Donc attention, parents, soyons sages de ne pas transmettre un héritage à des personnes, à nos enfants, nos petits-enfants qui sont à nos enfants en fait, nos enfants-enfants, d'accord, qui n'ont pas encore la possibilité de s'assumer. Et qui n'ont pas compris tous les principes que, durant leur croissance, on veut leur donner. Je ne sais pas si vous avez vu dans les applications, il y a la possibilité, ils nous encouragent à faire un testament. Ça m'a choqué quand j'ai vu la leçon. Je fais quoi? Il faut qu'on pense à ça. Ça veut dire qu'on imagine un peu on se fait des films, mais bon. Moi, perso, je ne l'ai pas encore fait. À vous de voir si vous vous sentez à l'aise avec ça. Mais je sais que la vie peut être raccourcie à n'importe quel moment. Et bon, voilà. C'est pas forcément négatif de penser à un testament. C'est peut-être sécuritaire. Donc voilà. À vous de voir et de mesurer ça dans la prière. On passe au jour numéro 6, si ça vous va. Le jour 5, c'était vraiment pour comprendre que... Il y a une transmission dans nos richesses. Il y a toujours un flux, un canal de bénédiction pour notre famille, etc. Et c'est important de le prendre en compte. Vous savez, dans ce monde, il y a l'esprit qui n'est pas de Dieu, qui empêche que la famille perdure. Et si vous parlez ou si vous lisez des livres, etc., je suis en train de lire un autre livre avec un entrepreneur qui est super calé, qui est chrétien. Il dit que c'est un analyseur ou analyste, bref, de la société. Et il a vu dans bien des cas que la famille est de plus en plus balayée de côté, et que les personnes s'enrichissent pour leur propre ventre, même sans penser à leurs enfants. Et c'est incroyable dire que certains gagnent des richesses, etc., de plus en plus pour eux-mêmes, sans penser à leurs enfants, etc., ou à leurs petits-enfants. Et ça, c'est pas de Dieu. C'est pas du tout de Dieu. Donc, c'est pour ça que le jour 5 invitait vraiment à avoir la pensée de tout faire, et souvent dans le business, dans les choses comme ça, d'inclure nos enfants. On va le voir dans la prochaine leçon. Le jour 6, c'est les jeux de hasard. C'est important de faire un tout petit chapitre là-dessus, et je vais vous raconter un témoignage. Justement, de jouer aux jeux d'argent, de parier, de prendre des risques, de spéculer. Le problème avec tout ça, donc dans les casinos, dans les paris, dans les événements sportifs, hein, la liste est longue. Le problème avec ça, c'est qu'on place notre confiance dans ce système, et ce système n'est pas de Dieu. On soutient un système qui rend captifs les personnes, qui les rend... Alors vous allez dire, oui, mais moi je le fais régulièrement. Mon père, il me disait, moi je joue au loto parce que je fume pas. Donc ce que j'aurais investi dans la cigarette, j'estime que je peux l'investir. Et en fait, il maîtrisait vachement bien son budget, etc. Mais il avait toujours au fond de son cœur l'espoir de gagner un jour au loto. Et cet espoir-là, c'est tellement dommage. Pourquoi ? Parce que ça prend la place que Dieu aimerait prendre pour nous rendre heureux. Il n'a pas compris que Dieu pouvait le rendre heureux et qu'il pouvait pourvoir à tous ses besoins le rendre riche, riche. Ça, c'est pas du tout le problème. Mais il a mis sa confiance sur le mauvais Dieu. Donc les motivations, c'est important de comprendre les motivations qui sont derrière ceux qui jouent. Alors, à un moment dans ma vie, j'ai voulu aussi jouer, je vais vous raconter ça. Proverbe 28, verset 20 dit « Un homme loyal sera comblé de bonheur, celui qui ne pense qu'à s'enrichir ne restera pas impuni. » Donc c'est toujours nos motivations, les motivations de notre cœur bien profond. Et le verset 22 qui dit « L'homme envieux se précipite sur la richesse sans se douter qu'il attire sur lui la misère. » Vous avez déjà entendu des gens qui ont gagné au loto, qui étaient plus pauvres des années après que le jour ou la veille de quand ils ont gagné au loto. Parce qu'ils n'ont pas su développer le caractère de celui qui gère une fortune, qui gère des richesses imposantes. Donc oui, c'est bien de gagner au loto, mais vaut mieux que quelqu'un qui est milliardaire gagne au loto, parce que lui, il saura gérer des sommes imposantes, vous comprenez ? Et encore mieux si cette personne a le cœur pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il joue au loto, mais voilà, vous m'avez compris. Donc souvent, on viendra peut-être vers vous. Est-ce que je peux jouer au loto ? Et moi, je connais une amie qui m'a dit, « Luc, j'ai eu dans un rêve les 6 chiffres du loto. Si je les jouais le lendemain, j'étais millionnaire. » Et je peux vous dire qui c'est. C'est une amie de Strasbourg, bref. Mais elle m'a dit, « Luc, si je le faisais, je donnais mon cœur au diable. » Et c'était là où il m'attendait, en fait. Et vraiment, j'ai compris que c'était une attaque et que vraiment, si je le faisais, j'allais mettre tout mon amour dans l'argent. Et c'est une personne qui en aurait bien besoin, hein, je vous le dis. Je la vois galérer, etc. Mais sauf qu'elle n'a pas encore compris tous ces principes qu'on voit dans la formation. Mais elle m'a un jour témoigné ça et j'ai toujours retenu ça. Des collègues me disaient, mais elle aurait mieux fait de gagner au loto, elle aurait pu donner aux pauvres, et aux... etc. Mais elle savait pour son cœur, pour sa vie, que c'était qu'elle jouait sa vie. D'accord ? Donc attention, parfois c'est très anodin, parfois ça vient de manière très subtile, et à nous de d'être avertis. Ce soir, on le voit juste dans le 6e jour, comment être averti. Et les médias, si vous avez capté, ils arrosent. Vous allez pas les panneaux publicitaires, etc. Le but, c'est de devenir riche, 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 de gagner, etc. Donc attention. Ok. vous avez d'un côté le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est l'argent facile. Et de l'autre côté, le principe biblique qui vous dit que l'argent va venir par le travail. Et ça, c'est tellement mieux pour notre vie, notre caractère, notre épanouissement. D'un côté, le jeu dit qu'il faut dépenser dans un système mauvais. Et d'un autre côté, d'investir dans le royaume de Dieu, vous allez devenir riche. Pas forcément pécuniairement, mais vous allez devenir riche d'une richesse qui vous épanouira. D'un côté, le jeu nous dit, tu as l'espoir de gagner, tu as l'espoir d'être riche. Et d'un autre côté, Dieu donne une assurance. Ce n'est pas juste l'espoir, c'est qu'il nous donne l'assurance qui sera toujours là pour notre provision et pour la multiplication. Et ça, je trouve, le camp est vite choisi, je crois. C'est important de le comprendre. Mais même en tant que chrétien, comme j'étais pas averti sur ça, je me suis quand même posé des questions. Parce que je me suis dit, wow, si je gagne au loto, Seigneur, mais alors tous les projets que je vais pouvoir faire pour toi, pour te servir, pour l'église, pour que des bons trucs. Et je le défendais. Et un jour, et on a terminé quasiment, j'ai voulu partir dans une conférence chrétienne à Bogota. Et j'avais pas l'argent, j'étais en train de faire un projet, etc., professionnel, et tout, monter une boîte, on était en coloc, on n'avait pas beaucoup d'argent, payer notre loyer, etc. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment pas beaucoup de ressources, bah, pourquoi je prendrais pas avec 1 ou 2 euros un ticket à gratter, bim, tu me mets 1500 balles, et c'est bon, j'y vais, je dirais merci Seigneur, et je vais le témoigner à tout le monde. Et c'est là le problème. Quel exemple on va en tirer? Par contre, le Seigneur m'a vraiment pas laissé. Je suis sorti de l'église un dimanche midi et je suis parti dans mon coin et j'ai pris un livre sur l'éthique chrétienne. Et dans ce livre, il y avait les jeux d'argent et tout ça. Et j'ai commencé à lire petit paragraphe de Jean-Marie Ribet. Très bien. Je lis et il dit simplement, je vous encourage à pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez montrer que vous placez votre confiance dans le jeu et pas sur Dieu. Et moi, j'ai tout de suite dit, ouais, moi, je veux pas ça. Moi, je veux te faire confiance, Seigneur. Et je sais plus si j'ai prié. Je m'en souviens vraiment plus. Le soir, on devait aller au ciné avec Mathilde et tout. On se fréquentait à cette époque. On était tout fraîchement guili-guili et tout. Et je me préparais simplement. J'étais dans ma chambre. J'étais prêt assez tôt. Le rendez-vous était à 21h, je crois. Et j'étais prêt déjà. Je me suis dit, je vais prier. Je vais juste dire merci, Seigneur, pour cette journée et tout ça. Trop cool. Je prends un temps de prière. Et là, je reçois un coup de téléphone de mon pasteur. J'étais dans l'autre église avant. Et là, il me dit, salut Lucky et tout, ça roule bien et tout. Je fais, déjà, pourquoi il m'appelle? Il ne m'a jamais appelé à cette heure-ci. Et il me dit, Luc, je voulais juste te dire qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai vraiment envie d'investir pour quelqu'un, j'ai envie de payer l'avion à quelqu'un pour aller à Bogota. Et le Seigneur m'a donné que c'était Luc et tout ça. J'aimerais que tu puisses lui dire. Voilà. Et le soir même, il m'a donné la bénédiction. Et je dis, Seigneur, depuis ce jour-là. Et en fait, c'est vrai que je vous le témoigne, mais le fait de faire ces formations et de m'intéresser tellement au domaine financier, d'après la parole de Dieu, c'était une des expériences qui l'a vraiment soutenue. Et je suis parti à Bogota, c'était trop cool. Enfin, on a vécu des choses super. Mais vraiment, j'ai vu que Dieu s'intéressait à mon problème. J'ai le droit de lui demander. Il va peut-être pas forcément répondre. Mais voilà, je vous ai déjà témoigné de la façon aussi qui m'a rappelé. Luc, tu as été fidèle dans ça. Là, tu as donné. Là, tu as vraiment eu un cœur sur la main. J'oublie jamais. Et là, je te bénis au moment où il faut. Voilà. Et c'était, je pense, 500 ou 600 euros. Mais je les avais pas. Et du coup, j'ai pu avoir mes petites ressources pour pouvoir compléter et y aller. Ok ? Voilà. On va finir la soirée par une vidéo qui dure 4 minutes. Il est 21h13. Une vidéo importante. Vous ne l'avez peut-être pas entendue, mais le message qui est donné dans cette vidéo est super important pour vous donner le contexte. Le monsieur qui parle, c'est le monsieur qui a créé cette formation que nous suivons, que vous suivez. D'accord ? Il s'appelle Howard Dayton et on va le voir pour ceux qui viennent à la conférence en Portugal. Donc c'est une personne qui a vraiment créé The Power of Money, de Compass, son ministère. Est-ce qu'on arrive à l'afficher Alors pour ceux qui sont sur le net, je vous ai pas envoyé le lien. Je vous l'enverrai dans le mail. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé, je suis désolé.
Thank you. Well, at the risk of being misunderstood, I want to share an experience that has fueled my passion to help people learn God's way of handling money. The year was 1977. I was in my kitchen alone when suddenly I was overcome by the Spirit of God. I found myself prostrate on the floor. I was weeping out of a heart of thanksgiving for Jesus Christ dying for me on the cross. Now, for the two previous years, I had been focused, just focused on studying what God says about handling money in the Bible and writing my first book on the subject. And while on the floor, the Lord revealed to me two things. First, that during my lifetime, our nation would experience a very challenging time financially. He didn't show me when the crisis was going to occur or what it was going to be like, but there's no doubt. Did you hear me say that? There's no doubt that it's going to happen. Now, the Lord didn't speak audibly, but it was clear, it was powerful, it was unmistakable. The second thing he showed me was through a passage in the book of Esther. I understood that God was calling me to be involved in some way in teaching people what the Bible says about handling money. Esther 4:14 says this, "Who knows whether you have been called for just such a time as this?" Well, at that time, I had no thought of starting Crown Ministries or Compass Finances God's way. But several years later, I was listening to a recording by Larry Burkett, and the Lord gave him the same verse when Larry started his ministry. And isn't it interesting that we merged together in the year 2000? Well, as you might imagine, I've often been asked if the financial crisis of 2008 that engulfed the entire world, that challenging financial time, was it. And the answer is no. It was an incredibly frightening and difficult time, but the Lord showed me that the event to come in the future is going to be much worse. The reason I share this is not to paralyze you by fear of the future, but rather to motivate you to prepare for the coming economic storm. There are two basic ways to prepare. First, prepare yourself spiritually. I mean, think about this. Think about a tree that survives a really strong storm. What's happened to it before? The roots have gone down during the good times so that it could survive the high winds of the storm. So be serious about preparing yourself spiritually. Get to know Jesus Christ really well. Read and study the Bible regularly. Attend a solid Bible teaching church. Fellowship with other people who are committed to following Christ. And secondly, prepare yourself financially. Be diligent in your efforts to get out of debt, give generously, budget, save, and work as unto the Lord. In short, become a faithful steward. You know, one of the best ways to demonstrate your love for your family and friends is to get your financial house in order and encourage others to do the same. And if you have a desire to help others learn God's way of handling money, we encourage you to serve as a Compass small group facilitator. Well, may the Lord bless you. Bless you as you make an effort to know Him better and get your financial house in order.
Amen. Super. Vous avez bien compris le message. C'était une vidéo de 2012, filmée en 2012. Elle est encore valable, elle est actuelle. C'est la personne qu'on va rencontrer à la conférence. On espère vraiment que, enfin, on croit vraiment que ce temps va aussi être vraiment puissant et que Dieu va encore faire des choses dans nos vies. Priez pour nous. On est un petit groupe à y aller et priez qu'on puisse ramener des choses pour vous. Parce que je crois vraiment que Dieu a en réserve des choses pour notre église, pour vous perso, et je crois que ici dans cette maison, Dieu a vu qu'il y a un cœur, dans lequel il peut semer, et je vous assure qu'il veut récolter et il va récolter des bonnes choses. Donc ce message, effectivement, peut-être vous l'avez un peu entendu sur le net, mais vous allez le recevoir dans le mail. C'est vraiment un message. Effectivement, il y a une crise économique qui va arriver. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on doit s'y préparer. Et pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont attachés à Dieu, il y a toujours des solutions. on les voit, et Dieu ne va jamais laisser tomber ses enfants. Et je crois que, et ça c'est en reprenant les mots de Kurt, qui est vraiment, de Kurt Elise, qui sont vraiment enthousiastes, c'est que, à contrario, dans ces temps-là difficiles, tous les enfants de Dieu qui auront su et connu ces principes vont être une lumière et vont dire, vont pouvoir être des témoins et montrer vraiment l'amour de Dieu au travers de leurs ressources, de tout ce que Dieu aura construit pendant ces temps-là. Donc profitons-en pendant qu'il est encore temps. Vous connaissez ce verset. Et je vous laisse avec ça ce soir. Soyons des intendants fidèles. Continuez, persévérez jusqu'au bout, je vous encourage, on a la 9e leçon, on en a 12, réservez, je vous le rappelle, le 24 février, c'est un samedi, et je vous donnerai encore plus d'infos, mais on va vraiment passer un dernier moment ensemble où il y aura deux sessions, une première avec la session du jour qui sera sur le thème de du cahier, et la deuxième qui sera justement pour faire un comeback sur tout notre parcours. Et je crois qu'il serait bon qu'on prenne un temps pour vraiment prier, intercéder, voire imposer les mains, etc. Je crois qu'on va encore le mettre en place, on va le préparer avec toute l'équipe pastorale et les leaders. Et je crois vraiment que ça va être bon pour chacun d'entre nous d'être envoyé, parce que ça ne s'arrête pas là. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup parlé ce soir. Vous avez été attentifs, merci. La prochaine fois, on va justement voir l'éducation. C'est un thème, je me disais à l'époque, bon, ça me concerne pas trop, mais vous allez voir qu'il y a des bonnes choses à savoir. Et quand on sait à l'avance, on peut vraiment se mettre dans les bonnes dispositions pour être successful. Je parle un petit peu anglais. Ok, je vais juste prier, je vous renvoie ce soir, je vous souhaite un bon week-end. Père, je te remercie au nom de Jésus pour cette soirée. J'étais vraiment KO, mais là, Seigneur, tu m'as donné une sépatate et je te glorifie. Je crois que c'est un miracle encore. Je tenais pas debout tout à l'heure et je te rends gloire. Père, pour cet enseignement ce soir, béni soit ton nom, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui l'entendent. Béni et glorifie-toi, Seigneur, dans nos circonstances, Seigneur. Je te place mes frères, mon frère, ma sœur, en Belgique, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais qu'on te les confie, Seigneur, ce soir, et que vraiment il y ait des solutions claires, qu'il y ait une issue, Seigneur. Viens par ton esprit encore, Seigneur, toi qui es fidèle. Merci de raccompagner chacun, de vivre un week-end extraordinaire, juste pour mieux te connaître et pour être plus proche de ton cœur, Seigneur, mais aussi pour vivre une communion fraternelle, vivre la vie à laquelle tu nous as appelés et être pleinement épanoui en toi, Seigneur. On t'aime, au nom de Jésus. Amen. Alors, merci. La séance est levée. Merci à vous d'être venus là sur le net, d'avoir suivi. Et puis, soyez bénis, on vous tient au courant pour la suite et passez un excellent week-end.
Salut, merci à la prochaine.
Alors, la date de la conférence, c'est du 1er au 4 février. Pour ceux qui veulent intercéder, être en prière, etc. pour nous, 1er au 4 février. Et le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 24.